Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est un plaisir de vous retrouver ici ce matin. Alors tout d'abord à 7h déjà, non mais attendez, il faut que je vous précise avec qui je suis tout de même. Je suis avec donc l'équipe, notamment Magda Dautefeuille, bonjour Magda.
Bonjour Alexandre.
Maëlys Clausel.
Bonjour Alexandre.
Et puis derrière à la technique, c'est Arnaud.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, plusieurs sujets différents. Tout d'abord on parlera eh bien, de Bruno Retailleau qui désormais menace les associations identitaires. Comment? Eh bien c'est Mathieu Sassy, avocat que nous avons déjà reçu à cette antenne, qui vous l'expliquera. Et puis à 7h25, grand sujet qui sera animé par Maëlys Clausel. La face obscure de la police, les forces de l'ordre défendent-elles vraiment la France? Nous recevrons pour cela l'ancien policier Jean-Pierre Colombiès et le commissaire divisionnaire Maurice Signolet. Et puis enfin à 8h20, ce sera Hervé de Lépineau, le nouveau maire de Carpentras, qui nous expliquera à quels nouveaux défis sont confrontés les maires Rassemblement National. Et puis Jean de Gana nous parlera un petit peu quand même de son procès qui a eu lieu hier, et à 9h05, comme tous les jeudis, ce sera l'analyse de Jean Messia. Voilà, un bien joli programme pour ce jeudi qui sera le dernier de la semaine sur Ligne Droite. Mais avant de commencer tous ces entretiens, un petit point sur l'actualité avec Magda Dautefeuille.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Ce mardi s'ouvrait le premier procès suite au scandale du périscolaire parisien, celui d'un ancien animateur de 47 ans poursuivi pour harcèlement sexuel sur 9 fillettes de CM2 et agression sexuelle sur 3 d'entre elles, des faits extrêmement graves commis dans une école du 11e arrondissement. Et pourtant, à l'issue de l'audience, le parquet a requis seulement 18 mois de prison avec sursis probatoire. Pas de prison ferme demandée, et l'homme est aujourd'hui sous simple contrôle judiciaire. Un message lamentable envoyé aux familles et aux victimes, parce que soit les faits sont insuffisamment établis et dans ce cas, la procédure pose question, soit les faits sont sérieux et alors cette réponse judiciaire apparaît totalement dérisoire au regard de la gravité des accusations et de l'âge des victimes. Et encore une fois, la justice donne le sentiment de protéger davantage les prédateurs que de défendre les enfants. Quant à savoir si le système est capable de se corriger avant que ces affaires ne deviennent banales, visiblement la réponse est non. Le jugement sera rendu le 16 juin prochain.
Et puis le pape Léon XIV pourrait être bientôt en France.
Et oui, le pape Léon XIV pourrait effectuer une visite en France dès la fin du mois de septembre. Selon la conférence des évêques de France, un déplacement à Paris et à Lourdes est actuellement en préparation. Après plusieurs échanges entre le souverain pontife et le cardinal Jean-Marc Aveline, le Vatican n'a pas encore officialisé ce voyage, mais l'Église de France affirme qu'une première ébauche de programme existe déjà. Emmanuel Macron aurait également soutenu cette initiative lors de sa rencontre avec le pape à Rome le 10 avril dernier. Lui qui parle souvent davantage de laïcité punitive que de racines chrétiennes de la France. Bref, un symbole pourtant pour les catholiques français, un symbole important pardon pour les catholiques français, d'autant que le pape aurait exprimé une grande estime pour la France et son histoire spirituelle. Et contrairement au pape François qui avait toujours refusé une véritable visite d'État en France, Léon XIV semble vouloir renouer un lien plus direct avec la fille aînée de l'Église.
Et on le remercie. Nouvelle polémique autour du canon français, ça n'en finit plus.
Et oui, c'est ça, ça n'en finit plus et ils ne savent plus quoi inventer. Le recteur de la grande mosquée de Paris, Shems Eddine Hafiz, accuse ces grands banquets populaires autour de la gastronomie française d'exclure symboliquement une partie de la population, notamment parce qu'on y sert du porc. Dans une vidéo, il critique un rassemblement de 4000 convives autour d'un cochon à la broche, estimant que ce type d'événement enverrait un message que certains ne sont pas chez eux en France. Oui, ce sont des propos complètement absurdes. Alors Marion Maréchal a réagi en rappelant que la gastronomie française n'a pas à s'excuser d'exister, et désormais l'affaire remonte jusqu'au gouvernement, puisqu'interpellé au Sénat sur le canon français, le ministre de l'Intérieur a promis une réponse si les différentes accusations formulées contre ces banquets étaient avérées. À croire qu'on s'ennuie vraiment en France pour transformer un banquet populaire et convivial en affaire politique. Donc maintenant, célébrer la cuisine française traditionnel doit-il désormais être considéré comme une provocation? Parce qu'à ce rythme-là, bientôt, manger du saucisson deviendra un acte politique. Alors écoutons le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, réagir sur Sud Radio.
En France, si vous vous retrouvez pour manger un bout de cochon,
eh bien, vous excluez ceux qui n'en mangent pas. Mais attendez, on est quand même dans le, là, on en, ça fait écho à notre débat de tout à l'heure. On est quand même dans le délire. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit. Alors moi, je reçois le canon français à Chalon. Et ça sera d'ailleurs pour un banquet de cochons aussi, traditionnellement, au moment de la fête des vendanges. Mon Dieu, là, il y a du vin et du cochon. Je sais pas, je vais avoir droit sans doute à une fatwa de monsieur Aziz, mais au bout d'un moment, faut qu'on arrête et qu'on remette les choses en face. On a le droit de se rassembler et de manger ce qu'on veut. On a le droit de faire la fête sans être accusé d'exclure les autres. Parce que chacun fait comme il veut, on est en France, et la France, c'est le pays de la liberté. Or là, ce monsieur est en train de contester la liberté de certains de manger des produits qui ne sont pas mangés par tous. Donc il y a une dérive, et elle est accentuée, et je le dis bien, c'est d'autant plus préoccupant que le recteur de la Grande Mosquée est dans la main du régime d'Alger, il l'a déjà montré, et il est en train d'accentuer cette différence. Je pense que là, pour une des plus hautes autorités religieuses musulmanes en France, ce discours est particulièrement, pardonnez-moi de le dire, séditieux.
C'était Gilles Platret résumant parfaitement la situation.
Et puis du côté de l'Iran, que se passe-t-il ?
Eh bien, l'opération américaine Projet Liberté devait montrer la puissance des États-Unis et rouvrir le détroit d'Ormuz, mais résultat, seulement deux navires escortés en 24 heures avant une suspension immédiate décidée par Donald Trump pour tenter d'arracher un accord avec l'Iran. Pendant ce temps, plus de 1600 navires restent bloqués dans le Golfe, la circulation est quasiment paralysée et même des bâtiments escortés par l'armée américaine continuent d'être visés. Les gardiens de la révolution iranienne menacent désormais toute tentative de passage hors des routes qu'ils imposent eux-mêmes. Autrement dit, malgré les destroyers, les drones, les avions et 15 000 militaires déployés, l'Iran continue de tenir le verrou stratégique du pétrole mondial. Et chaque jour qui passe augmente non seulement le risque d'escalade, mais aussi la pression sur les prix de l'énergie partout dans le monde.
Et pour le sport ?
Eh bien, en foot, le Paris Saint-Germain se qualifie en finale de la Ligue des Champions hier face au Bayern Munich. Un partout pour le match retour auquel le PSG avait déjà des points d'avance. Deuxième finale de Ligue des Champions consécutive pour le club parisien.
Et pour ce qui est de la météo maintenant ?
Eh bien, aujourd'hui, les nuages bourgeonnent sur une large moitié nord du pays, mais laissent passer quelques éclaircies avec encore de faibles averses en Bretagne, dans le nord-est et le massif central. Le soleil, quant à lui, domine de l'Aquitaine à la Méditerranée. Côté température, nous attendons pour les maximales de 15 à 21 degrés du nord au sud, avec notamment 15 à Cherbourg, 17 à Paris, 19 à Lyon et jusqu'à 21 à Ajaccio. Et nous célébrons en ce 5 mai Sainte Flavie et Sainte Gisèle, qui est la sœur de Saint Henri, épouse de Saint Étienne et mère de Saint Aimeric.
Eh bien, dis donc, sacrée famille. Merci Magda.
Ligne droite.
Et tout de suite, on passe au décryptage avec Maïlys Clauzel, ou plutôt une sorte de compte-rendu, parce que Maïlys, hier, vous étiez donc à la soirée des lanceurs d'alerte de l'ASLA. Donc expliquez-nous un petit peu.
Eh bien écoutez, exactement, cher Alexandre, comme je l'avais dit, j'étais donc hier soir là-bas, et c'était une soirée là où les lanceurs d'alerte que nous connaissons, enfin on peut les considérer comme des lanceurs d'alerte patriotes, disons, étaient tout à fait récompensés pour leur travail assez... assez acharné du quotidien. Donc c'était une soirée où militants, journalistes, intellectuels étaient au rendez-vous. C'est ce genre de moments de communion qui sont assez essentiels pour se remémorer du fait que nous ne sommes pas seuls. Et puis écoutez, chers auditeurs, je vais évidemment vous dire ces personnes qui ont été
Récompensées effectivement. Parce que c'était ça l'objectif, c'était de récompenser donc les meilleurs lanceurs d'alerte du compatriote.
Exactement. Alors oui, effectivement les meilleurs. Là, cela on précisait, ils ne pouvaient pas évidemment récompenser tout le monde, parce que effectivement ils sont beaucoup, mais évidemment Damien Rieu a reçu par exemple le Témis d'or du lanceur d'alerte sur l'islamisme. On a évidemment aussi Alice Cordier qui a elle reçu celui de l'engagement militant et du courage militant. On a évidemment aussi François Bousquet qui a reçu le Témis d'or pour dénoncer le tabou du racisme anti-blanc. Et puis les soutiens de l'ASLA, eux, ont voté pour Pascal Le Petit, qui est celui qui a fait donc fermer l'IESH, le centre de formation globalement des frères musulmans. Donc effectivement, c'était amplement mérité. Et puis forcément, le lanceur d'alerte de l'année, qui n'est autre que Charles Aloncle, pour son engagement tout à fait honorable et son travail de longue haleine pour expliquer aux Français que leur argent est encore une fois mal utilisé par le service public. Donc voilà, et aussi également maître Vincent Lambert aussi, qui est un avocat évidemment brillant, hein, comme Mathieu Sassilet, je sais qu'il nous écoute, c'est pour ça que je dis ça, mais qui est évidemment tout à fait engagé, qui a fait gagner de nombreuses personnes, et notamment des personnes issues du camp patriote, à gagner leur procès et donc à continuer leur travail absolument essentiel.
Ouais, c'est effectivement important d'avoir cette forme de protection quelque part que mène l'ASLA donc vis-à-vis de ces lanceurs d'alerte, et puis effectivement de les valoriser un petit peu tous les ans, c'est quelque chose qui est important et qu'on essaye de faire aussi ici à Ligne Droite.
Exactement.
Et ben écoutez, merci beaucoup Maëlys Clauzel, et puis on vous dit à très vite parce que vous allez animer un entretien très bientôt.
Tout à fait.
Ligne Droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Maître Mathieu Sassy. Maître Mathieu Sassy, bonjour, vous êtes avocat. Et alors aujourd'hui, eh bien, nous allons parler un petit peu des associations identitaires. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, vous m'entendez ?
Très bien, parfait. Alors, le premier sujet effectivement sur lequel on voulait poser une question, c'est que il y a une proposition de loi qui vient d'être déposée donc par Bruno Retailleau, qui a été déposée sur l'entrisme islamiste et qui a été adoptée au Sénat, il y a 2 jours. Et alors, dans cette loi, il y a bien des éléments. Le premier et celui qui vous a le plus alerté, c'est ce que vous disiez, c'est celui du gel des fonds et ressources économiques, avec une possibilité donc pour le gouvernement de mettre une sorte de pression sur les associations. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette mesure d'un point de vue législatif ?
Oui, alors très concrètement, on a eu une extension qui était passée assez inaperçue dans le débat public. C'est un confrère qui a alerté mon attention là-dessus, chose que j'ai publiée en effet sur les réseaux sociaux et qui a été largement repris aujourd'hui, c'est que l'extension de la possibilité de geler l'argent des mouvements terroristes est désormais étendue à tous les mouvements dissidents, donc patriotes compris, évidemment, mais toute la dissidence, c'est-à-dire tous ceux qui aujourd'hui dans ce pays font entendre une voix dissonante par rapport au récit unique, sont susceptibles de voir leurs fonds gelés sur simple décision du ministre de l'économie et du ministre de l'intérieur. Voilà, gel des fonds et des ressources économiques, pour, dit l'article 6, quatrièmement de cette proposition de loi adoptée au Sénat. Hein. Elle est déjà adoptée au Sénat. Maintenant, elle va venir à l'Assemblée nationale pour discussion. Les ressources économiques qui appartiennent ou sont possédées par des personnes physiques, des individus, ou des personnes morales, associations, mais aussi fonds de dotation, voire société à but lucratif. Donc, c'est-à-dire que toute société constituée, association ou non, est susceptible d'avoir ses comptes ou ses actifs économiques gelés dans la mesure où ces entités provoquent ou contribuent à la discrimination et, attention le mot-clé, à la haine. D'accord ? Donc, en fait, les fameuses mesures de censure qui autrefois s'appliquer uniquement à des mouvements terroristes vont s'appliquer désormais à ce que Jean Sévillier appelait le terrorisme intellectuel, donc c'est-à-dire tous ceux, si vous voulez, qui font entendre une voix dissonante.
Mais alors, Mathieu Sassy, pour bien comprendre, le gel des fonds et des ressources économiques, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut plus accéder à son compte bancaire ?
Oui, votre compte bancaire est gelé.
Voilà. Et alors, on sait déjà qu'il existe une forte pression, ne serait-ce que par le fait que beaucoup de banques ferment les comptes de certains militants du camp national en général, qui sont chez eux de manière arbitraire. Pareil, on sent que la pression économique, elle vient se substituer à la pression légale qui existait déjà auparavant. C'est-à-dire que avant, on essayait de faire condamner effectivement ces associations pour violence, pour incitation à la haine, etc. Maintenant, on sent que l'autre méthode, le substitut, c'est de faire une forme de pression économique.
Alors oui, c'est tout à fait vrai que la pression économique est le prolongement de la pression politique, mais que les auditeurs le sachent bien. C'est-à-dire qu'une banque fasse de la discrimination politique, c'est aujourd'hui de notoriété publique, d'accord ? On vous refuse l'ouverture d'un compte, ou on vous ferme votre compte, mais on vous restitue votre argent, on vous restitue le fruit de votre travail, on vous restitue le fruit de votre engagement. Ce qui est neuf, c'est que désormais, ce sera gelé, voire confisqué. C'est ça qui est tout à fait nouveau, et c'est-à-dire que sur injonction de la loi, on dira aux banques, même celles qui ont accepté une ouverture de compte, que par ordre de la loi, l'intégralité de ces fonds deviendra inaccessible à ceux à qui ils appartiennent. Et c'est ça qui est tout à fait neuf. C'est une confiscation administrative de vos avoirs.
Et est-ce que ça peut être fait, pardon, est-ce que ça peut être fait, justement, vous dites que c'est administratif, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de condamnation, il y a juste besoin d'une sorte de suspicion, enfin, comment ça marche,
c'est-à-dire, exactement, ce qu'on a pu voir dans l'actualité s'agissant de Xavier Moreau ou de Monsieur Beau, hein, qui ont pris des positions non conformistes sur la scène internationale, peut s'appliquer désormais à n'importe quel citoyen français. C'est-à-dire que du jour au lendemain, sur décision administrative, sans décision judiciaire, hein, sur décision administrative, dans la mesure où ils considèrent ou ils ont de bonnes raisons de croire que vous contribuez à la haine et à la discrimination dans ce pays, hein, ce qui sont des critères relativement flous, pour ne pas dire orwelliens, le ministre de l'économie, contresigné par le ministre de l'Intérieur, vont vous empêcher d'accéder à votre compte bancaire.
Mais alors, j'ai même envie, vous donniez cette, vous parliez de justement cet aspect flou du caractère donc d'incitation à la haine, etc. De ces associations. De manière générale, la loi elle-même, donc qui est proposée lutter contre l'entrisme islamiste en France, elle veut créer un délit d'atteinte au principe de la République. Ça veut dire quoi ça?
Écoutez, les principes de la République, c'est la promotion de l'immigration, d'accord, la promotion de traditions qui sont étrangères à notre pays, et désormais le titre 2 de cette loi, l'assèchement financier, non pas des groupes islamistes, mais des groupes séparatistes. Mmh. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est séparatiste selon les valeurs de la République? C'est évidemment la foi catholique, toutes les associations catholiques, ou tous les mouvements conservateurs ou enracinés, d'accord? Donc assécher le financement des groupes séparatistes.
Maître Sassi, pardon, mais enfin, c'est Bruno. On va pas accuser Bruno Retailleau de d'être anti-catholique. C'est-à-dire que bon, il a sans doute plein de défauts, mais l'accuser d'être effectivement de vouloir lutter contre le catholicisme en France, ça paraît pas très crédible. En l'occurrence, c'est quand même un catholique fervent, plutôt traditionnel, etc. Enfin, je dis pas que c'est un saint, mais...
Oui. Mais en fait, moi, si vous voulez, ce que je juge crédible, c'est surtout le titre 2 de cette proposition de loi qui s'appelle, en effet, proposition de loi Retailleau, d'accord, et qui s'appelle assécher le financement des groupes séparatistes, d'accord. Et groupes séparatistes entendaient, en effet, tous les mouvements catholiques enracinés, ou en tout cas, si vous voulez, qui promeuvent les valeurs de la France. Et sous ce quatrièmement, en effet, de la proposition de loi Retailleau, hein, tous ces groupes, dont les milieux catholiques et enracinés, ou toute la sphère dissidente, sont susceptibles, en effet, d'entrer ou de voir leur compte bancaire ou toutes leurs ressources financières gelées, voire confisquées, dans la mesure où on considère qu'ils participent à la haine et à la discrimination. D'accord ? Donc, j'ai envie d'ajouter, s'agissant de M. Retailleau, c'est qu'avec des amis comme M. Retailleau, pas besoin d'ennemis.
Et alors, d'une certaine façon, moi, ce qui est évidemment étonnant dans cette loi, c'est que, alors que c'est une loi sur l'entrisme islamiste, comment ça se fait, selon vous, que, justement, les identitaires, le camp patriote, en général, soient visés en miroir ? C'est-à-dire que c'est quand même assez étonnant dans une loi sur l'entrisme islamiste que finalement, il y a quelque chose de très français, quelque part, à vouloir taper sur tout le monde, alors que théoriquement, on voit très bien où est la menace, et dans le fond, c'est même dans le titre de la proposition de loi la menace.
Mais les valeurs de la République, et les auditeurs le savent bien, ce sont les valeurs de l'autruche, d'accord ? C'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire officiellement qu'il y a un malaise s'agissant de la présence de l'islam en France au regard de l'identité chrétienne de la France. On ne peut pas le dire, ça. Donc, il faut lutter contre tous les séparatismes. Et dans tous les séparatismes, évidemment, s'il y a une mesure contre les mouvements islamistes, il faut taper sur les mouvements catholiques, d'accord ? Puisque on le sait bien, dans ce pays, si on élève la voix contre des mouvements qui sont contre les valeurs de la France, hein, qui ne sont pas nécessairement celles de la République, eh bien, il faut nécessairement taper sur les autres. Donc, si on attaque l'ultra-gauche, il faut attaquer les mouvements enracinés. Si aujourd'hui, en fait, il y a un malaise avec l'islam, il faut évidemment interdire le catéchisme dans les écoles catholiques. Oui, donc, maintenant, cette rhétorique, elle est bien connue. Et les auditeurs et nos concitoyens doivent bien être alertés que cette proposition de loi de Retailleau a pour but ou va permettre d'assécher financièrement tous les mouvements enracinés, qu'ils soient catholiques ou non, qu'ils soient patriotes ou simplement dissidents, comme on a pu le voir avec la table de Gaïa et la lutte pour les droits des agriculteurs dans le contexte de la vaccination forcée de leurs bêtes.
Et ça fait un petit peu penser à, je ne sais pas si vous avez vu, mais Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui expliquait récemment dans un entretien donné à l'Express, qui comparait le séparatisme régionaliste et le séparatisme des frères musulmans. Enfin, on a l'impression que tout ça participe d'une... d'une vaste farce sur républicaniste. D'un autre côté, ce qui interroge un petit peu Mathieu Sassy, c'est que il y a eu la dissolution de la Jeune Garde qui est arrivée jeudi dernier, et à ce moment-là, il faut dire que, enfin, qui a été confirmée jeudi dernier en appel. Est-ce qu'on n'a pas cru à un moment que finalement le deux poids deux mesures anti-patriote s'arrêterait et que justement peut-être que enfin on prenait des mesures sérieuses contre les antifas, contre le système d'extrême gauche?
C'est une plaisanterie, la dissolution de la Jeune Garde, c'est un jeu de dupes, d'accord. On a les soulèvements de la Terre, eux n'ont pas été dissous alors qu'ils ont ils ont des méthodes terroristes, hein. La Jeune Garde est dissous, mais le Conseil d'État ne pouvait pas faire autrement. Mais j'ai envie d'ajouter que la Jeune Garde n'est dissous que maintenant. Sauf que tous les mouvements qui sont liés à la Jeune Garde, notamment leur canal Telegram qui filme et diffuse tous leurs actes violents partout sur le territoire français, continuent d'exister. D'accord. Donc en fait, cette dissolution est une supercherie. C'est une supercherie. C'est une mesure qui est cosmétique dans un contexte chronique, si vous voulez, où le gouvernement laisse prospérer tout ce qui est tous les mouvements anti-France et de temps en temps, en effet, laisse penser qu'il aurait un traitement équitable pour tous. C'est faux.
Vous pensez pas que ça va quand même leur nuire, cette dissolution? C'est-à-dire que est-ce que ça va pas ne serait-ce que leur rendre la vie plus compliquée? On en parlait l'autre jour avec justement Édouard Bina de la Cocarde ou Stanislas des Natifs qui disaient quand même, faut dire que la dissolution d'une association, ça empêche de se regrouper à nouveau, ça empêche de reproduire les mêmes actions. Enfin, théoriquement, ça reste contraignant.
Non, ça ne reste pas contraignant. La Jeune Garde est dissous. Elle s'est recréée une fois, deux fois, trois fois, dix fois avec des groupes locaux, avec des nouveaux responsables. On a même vu des reportages financés par le service public ou par des médias militants où on voyait d'autres mouvements dont j'ai oublié le nom, mais je pense qu'Alexandre, vous l'avez à l'esprit, où on voit finalement ils appellent ça la lutte contre le FN ou que sais-je. On a entendu Mélenchon.
Éteignons la flamme, notamment.
La flamme, voilà. Éteignons la flamme. On a vu Jean-Luc Mélenchon, responsable politique, entouré d'autres députés LFI, valider, si vous voulez, ce nouveau groupe. Donc, non, c'est la mesure qui a été ordonnée par le Conseil d'État, si vous voulez, suppose ensuite qu'il y ait des enquêtes pour recréation de ligues dissoutes. Mais c'est toujours pareil. Il faut une volonté politique de lutter contre l'extrême gauche. Or, l'extrême gauche est bien utile dans le jeu électoral, puisque l'extrême gauche lutte contre la France. Et c'est également le projet d'un certain nombre d'élus de la République de lutter contre la France et ses valeurs.
Et vous pensez que c'est aussi le cas d'un Bruno Retailleau, justement, avec sa loi ou du parti, et de son parti? C'est-à-dire que vous pensez qu'en l'occurrence, Bruno Retailleau, il faut le ranger dans le camp de l'anti-France pour ces raisons-là?
Mais ce sera, je pense, la conclusion de mon intervention. Avec des amis comme Bruno Retailleau, pas besoin d'ennemis.
Et à ce moment-là, voilà. Si c'est la conclusion, on terminera là-dessus. Merci Maître Mathieu Sassy d'avoir été avec nous ici ce matin et de nous avoir un petit peu éclairé justement sur toutes ces associations. Heureusement, on en parlait avec Maëlys quelques minutes plus tôt, que l'ASLA est aussi présente pour pouvoir les défendre quand le besoin s'en fait sentir. Et heureusement que vous êtes là aussi, Maître Mathieu Sassy, dans ces circonstances. Merci beaucoup et à bientôt ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Dans un instant, ce sera le grand entretien et puis la chronique de Vatrigan. Mais je vais donc laisser le micro à Maëlys Clozel qui va animer la suite de cet entretien.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Jean-Pierre Colombiès. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ainsi que Maurice Signolet pour parler donc de l'ouvrage de monsieur Colombiès qui s'intitule « La face obscure de la police ». Donc un titre assez évocateur monsieur. Alors évidemment, on va ouvrir le bal avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps quel était l'objet, quelles étaient les raisons de l'écriture de cet ouvrage?
Ouais, elles sont multiples. C'est l'aboutissement d'abord de 34 ans de carrière dans beaucoup de services, essentiellement en PJ, en police judiciaire. Le fait d'avoir subi, moi et beaucoup d'autres, alors on va être très clair, hein, quand je parle à la première personne, il faut bien traduire cela par un jeu collectif. Mmh. Parce que ce que j'ai connu, ce que j'ai eu à subir comme tant d'autres, hein, c'est véritablement une pression qui a été collective. Sur la couverture, alors je ne sais pas si on peut la voir ou pas, la couverture représente un policier qui est menotté dans le dos.
Tout à fait.
Alors pourquoi? Pourquoi ça a un double sens, si vous voulez. Pendant la crise des Gilets jaunes, en fait, l'idée a commencé comme ça. Je n'avais eu de cesse de rappeler sur la plupart des plateaux où on m'avait invité, je n'avais eu de cesse de rappeler que chaque fait commis par des policiers, à un moment donné, pouvaient engager leur responsabilité personnelle. Et qu'il ne s'agissait pas simplement d'obéir à des ordres, quels qu'ils soient, y compris lorsqu'ils n'avaient que l'apparence de la légitimité. Le fait d'obéir à ces ordres pouvait engager votre responsabilité à la fois administrative et pénale. Donc, c'était déjà le premier sens donné à cette image. Et le second, c'est tout simplement l'idée de vouloir illustrer que l'institution police dans son ensemble est prisonnière des démagogies politiques, quelles qu'elles soient, de droite comme de gauche. Donc c'était vraiment ça l'idée qu'on voulait illustrer par cette image un peu frappante, choquante peut-être pour d'autres, mais c'est tant mieux si ça choque, d'un policier menotté dans le dos. Et on voit que la multiplication des affaires, malheureusement, eh bien donne raison à ce principe qui fait que chaque policier qui a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, peut le conduire eh bien, à en répondre devant les tribunaux, devant la justice.
Alors, au sein de votre ouvrage, vous revenez évidemment aussi sur votre parcours, précisément. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez l'expliquer à nos auditeurs?
Alors, j'espère qu'on a du temps. Hein, parce
oui,
que...
bien sûr, on a 50 minutes.
Ouais, moi, j'ai commencé comme inspecteur, comme Maurice Signolet, et essentiellement en PJ, très peu de temps en brigade financière. En brigade des stupes au Quai des Orfèvres, ensuite au SRPJ de Marseille, à l'époque ça s'appelait SRPJ de Marseille, en brigade criminelle, en stupes, ensuite en sûreté urbaine, en brigade d'atteinte aux personnes, où nous étions chargés essentiellement de violences urbaines, violences dans les cités, et aussi et surtout en matière d'agression sexuelle, donc agression sexuelle, viol. Et puis ensuite, toujours des changements d'affectation au fur et à mesure des réformes politiques en brigade territoriale, et puis en tant que chef d'arrondissement, et puis finalement, je suis revenu en région parisienne au commissariat de Neuilly-sur-Seine, et puis Boulogne-Billancourt, et enfin l'état-major des Hauts-de-Seine, du syndicalisme en tant que délégué permanent, et ensuite, pour terminer, au commissariat du 16e, qui a été ma dernière affectation, où je suis resté relativement peu de temps. Donc c'est assez polymorphe, si vous voulez.
Effectivement, c'est une sacrée carrière, on peut le dire. Alors Maurice Signolet, monsieur Colombiès donc, a écrit dans son ouvrage qu'il était absolument pénétré par l'importance de la police, non comme instrument de contrôle au service du gouvernement, mais comme un outil de paix. Est-ce que qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase?
Il me cite dans son livre?
Non, du tout. C'est justement...
Ça rejoint le message.
Tout d'abord, Jean-Pierre et moi, on se connaît bien. On a été ensemble à la brigade des stupéfiants à une certaine époque. Tout comme lui, moi j'ai 40 ans de police derrière moi. On fait le même constat. C'est-à-dire que la chance que l'on a, enfin... notre âge nous permet d'avoir le recul nécessaire pour analyser notre carrière et de voir la dérive que l'on a connue au fil des années. Son livre, c'est exactement ça, hein, tout comme le mien que j'ai écrit il y a un an déjà, c'est pour expliquer cette dérive de l'institution policière qui est liée à la fois à une dérive interne. Hein. Il y a un glissement des valeurs au sein même de l'institution, mais qui est lié globalement à une dérive sociétale. Mmh. Hein, c'est uniquement ça. Et donc, eh ben le constat, il est accablant, quoi. Il est accablant. Mais de l'autre côté, pourquoi est-ce que des policiers comme Jean-Pierre, moi, on prend la plume pour l'expliquer? C'est simplement pour rappeler le cheminement. Hein, quel a été le cheminement et comment on pourrait s'en sortir quelque part. À chaque fois qu'on intervient, c'est pour apporter une analyse qui permette un renouveau quelque part. Hein, parce
casser,
que sinon...
casser les codes de la communication officielle. On va être clair. Moi, mon bouquin, on va être très direct. C'est un acte militant.
D'accord.
Y a le constat, effectivement. Mais à un moment donné, il y a la volonté de dire bon, ça suffit. Ça suffit d'avoir ce discours démagogue, ce discours de bienveillance permanent des politiciens qui sont mais tous d'une lâcheté mais universelle. Il y a un vrai ras-le-bol, si vous voulez. Quand vous avez un parcours comme celui-là, de plusieurs années dans cette boutique, que vous ne vous êtes pas économisé, que vous avez été, entre guillemets, sur le front. Je ne vais surtout pas paraphraser les phrases qui sont très à la mode depuis que notre président parle de bataille permanente. Bah, il ne sait pas trop de quoi il parle, du reste. C'est mais il, non, quand je dis vraiment ça, ce n'est même pas méchant, c'est juste un constat. C'est que quand vous n'avez pas vécu ça, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quand vous n'avez pas été vraiment, vous n'avez pas mis les mains là-dedans, c'est-à-dire dans un milieu pourri, comme le milieu des stupes, comme le milieu de la délinquance crasse, vous ne savez pas de quoi on parle. Le policier est le seul fonctionnaire qui se lève le matin avec une arme sur son côté, qui risque de tuer, d'être tué, de perdre son job, d'être d'avoir la focale de l'opinion publique contre lui, et pas toujours avec lui malheureusement, et avec vraiment le sentiment d'une trahison permanente. J'en reviens à l'image que je vous ai décrite. Des policiers prisonniers de cette démagogie politique, qu'elle soit de droite comme de gauche, démagogie vraiment de la bienveillance dégoulinante qu'a exprimé un certain temps la gauche avec Jospin, Chevènement et la police de proximité qui ne pouvait pas fonctionner. Et puis, cette démagogie, mais hypocrite, d'une forme de droite qui consiste à montrer les muscles, à bander les muscles, à bomber le torse, tout en enlevant les moyens à la police de fonctionner par la diminution de ses effectifs, par le poids des statistiques, par cette hystérie du commandement. Et le virage vraiment que je dénonce, c'est 1995, le début de la militarisation de l'institution police. Alors on va être très clair, moi j'ai rien contre les militaires, je dis simplement chacun son job. Et quand j'entends certains farfelus dire on va régler les problèmes des cités, vous allez voir, problème des cités ça ne veut rien dire, hein. Les problèmes des quartiers sensibles, là encore il y aurait beaucoup de choses à dire, on y reviendra. Parce que c'est très important cette notion, on va envoyer l'armée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on décide de déclarer la guerre à des pans entiers de notre société avec des gens qui ne sont absolument pas formés pour ça. Enfin, on en revient à ce concept qu'on a connu, moi je l'ai connu, j'étais bébé, pendant la guerre d'Algérie, où pour régler un problème éminemment politique, on envoyait l'armée. Résultat des courses, il y a un divorce quasiment irréfragable entre l'Algérie aujourd'hui et la France. C'est un autre débat, vous me direz, et vous auriez raison. Mais c'est pas tout à fait un autre débat, dans la mesure où aujourd'hui, on voit encore sur des plateaux télé auxquels j'ai été confronté, vous avez des gens en face de vous qui ne connaissent rien au sujet, mais qui lisent des fiches, je l'ai vu, qui lisent des fiches qui leur ont été dictées par le ministère de l'Intérieur. Vous êtes dans l'escroquerie morale absolue, totale. Des gens qui sont payés par le gouvernement, de façon directe ou indirecte, viennent raconter, débiter leur programmation, leurs éléments de langage, leur propagande, faut appeler ça, sur des plateaux télé, parce qu'ils sont payés pour cela, alors que ils sont en face de gens comme moi, comme d'autres, qui ont un vécu réel. Et quand vous voyez ces images d'opérations XXL, de débarquement de forces de policiers harnachés comme des soldats de l'an 2030, vous vous dites, mais on est chez les fous.
Bien sûr, ouais.
On est chez les fous. À côté de ça, il y a une autre réalité, elle est sociétale, elle est sociale. Je cite beaucoup d'auteurs dans cet ouvrage. Ça n'est pas par hasard. Vous savez, quand vous avez la chance de lire des auteurs qui mettent des mots et qui font des analyses de façon plus brillante que vous, eh bien, il ne faut pas hésiter à les citer parce que ça complète votre sentiment, votre ressenti et votre vécu. C'est en cela que ce bouquin est militant. C'est pas simplement un constat que je fais. Je dénonce haut et fort ce qui se passe à l'intérieur de la boutique. Vraiment, pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi ça fonctionnera de moins en moins avec cette grande escroquerie qui est en train d'être mise en place, contre lesquelles on n'aura peut-être pas le même avis, Maurice et moi, là-dessus. J'ignore quel est son point de vue, d'ailleurs. Mais pour moi, la police municipale, le développement de la police municipale comme supplétif, on va employer un mot qui a été à la mode, grand remplacement de la police nationale, est une folie. Voilà, que j'argumente, que je développe en disant attention, on est en train de vous faire passer vraiment des concepts, on veut vous infuser ce concept nouveau en vous faisant croire que parce qu'on va développer la police municipale, on va répondre à tous les soucis sur le terrain, que ce soit des soucis de proximité ou de répression de tous les trafics, et en particulier du narcotrafic, pour lesquels les polices municipales n'ont strictement aucune compétence. Ce qui ne veut pas dire que les policiers municipaux individuellement sont des gens qui sont des incompétents, c'est pas ça du tout le débat. Le débat, c'est de dire que ça n'est pas leur vocation. Il y a une police nationale qui, pour moi, doit être la police de tout le monde, une police universelle qui répond à toutes les problématiques, que vous soyez à Bourges, Marseille, Besançon, Brest, avoir la même philosophie d'emploi, répondant aux mêmes exigences, et pas simplement des petites polices locales qui ressembleraient à des milices politiciennes, parce que nous nous y trompons pas. La police municipale, c'est l'outil répressif du maire.
Oui.
Alors si vous avez un maire qui gère sa commune en bon père de famille, comme il est l'usage de le dire, tout va très bien. Mais si vous avez un maire beaucoup plus, je dirais, radical dans sa pensée politique, et on a des exemples très proches de nous, ça va être une catastrophe. Et là, je persiste encore, de droite comme de gauche. Vous imaginez bien que la police municipale à Saint-Denis, par exemple, je choisis cet exemple au hasard, n'aura pas la même philosophie d'emploi que celle qu'elle avait à Levallois-Perret sous l'autorité d'un monsieur Balkany. Et encore moins à Nice ou à Cannes. Vous avez des maires qui sont carrément, qui le disent. C'est ma police. Eh bien non, c'est pas votre police, monsieur le maire, c'est la police universelle pour ceux qui ont voté pour vous et aussi pour ceux qui n'ont pas voté pour vous. Donc ce bouquin, c'est un coup de gueule, des coups de gueule que j'ai passés ici aussi, d'ailleurs je vous en remercie. J'ai souvent été invité à Radio Courtoisie. Alors vous êtes catégorisé à droite, bien évidemment, mais à ceux qui m'en ont parfois fait l'observation, je réponds mais qu'on m'invite ailleurs, vous verrez, je dirais exactement la même chose. Il n'y a aucun problème. Nous faisions le compte avec Maurice des médias dans lesquels on avait eu l'occasion d'intervenir. Mais moi, je me fiche éperdument de votre ligne éditoriale. Que ce soit clair, ce que je dénonce, c'est quelque chose d'universel. Parce que la sécurité des plus fragiles, elle est universelle. C'est pas simplement une affaire de courant politique. Et on y reviendra, parce que j'en parle beaucoup dans mon bouquin, de certains épisodes d'alternance politique qui ont été catastrophiques, pas simplement pour la police, mais pour la citoyenneté et le rapport police-citoyenneté.
Maurice Signolet, vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette police nationale qui serait remplacée par la municipale ?
Alors, je pense exactement la même chose que Jean-Pierre.
C'est
exactement ça. Alors, pour nos auditeurs, il faut bien qu'ils comprennent que tout ça est lié à un agenda politique très clair, qui est lié à une forme de mondialisation économique, et que, en fin de compte, la sécurité du quotidien n'est pas la préoccupation de nos politiques depuis près de 40 ans. Le but est d'arriver à une forme d'israélisation de la police. C'est-à-dire que le but ultime, c'est de disposer d'une force qui permette une domestication des masses au profit d'une élite. C'est ça. Il faut bien que les gens en prennent conscience. Moralité, l'État se désengage de toutes ses missions régaliennes, y compris la mission régalienne de sécurité. Et là, je rejoins Jean-Pierre, c'est exactement ce qui se passe. Alors, il évoquait tout à l'heure la militarisation de la police, c'est clair que c'est ce qu'on cherche à faire. D'abord, moi, depuis 95, on voit que maintenant la police défile au 14 juillet, etc.
Oui.
La tenue, les uniformes, les appellations, on parle la disparition des corps d'inspecteurs pour un corps d'officier, ce qui est catastrophique. Une espèce de forme de robotisation de l'uniforme, etc. Et ce glissement des polices municipales, mais c'est une catastrophe. Pour vous donner un chiffre, il y a aujourd'hui 36 000 policiers municipaux. Il y en avait 5 000 en 1984. Comment est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'un jour il y aurait une police municipale à Paris alors qu'on ferme, on a fermé 54 commissariats de quartier. On voit bien que ce glissement, tout doucement, on veut amener à une espèce de militarisation de la police, c'est-à-dire qu'on puisse disposer d'un outil qui nous permette, comme avec les gilets jaunes, d'arrêter les velléités de la population, et que la sécurité au quotidien, ça n'intéresse plus personne.
Ça passe au second
et donc on va déléguer ça à la police municipale. C'est une véritable catastrophe. Pire, et également à la société privée. Il faut savoir que vous avez aujourd'hui près de 200 000 individus qui travaillent dans des sociétés de sécurité privée. Ouais. On n'a jamais vu ça. On est passé, je crois, en l'espace de 10 ans, de 9 000 sociétés à 21 000 sociétés.
Et pour compléter son propos, qui est très intéressant, avec la complicité d'anciens directeurs de haut gradé de la police nationale. Il faut savoir que dans le cadre de ce développement des sociétés privées, vous retrouvez des noms qui sont dans les courants politiques, comme Lambert, qui avait été préfet de la Seine-Saint-Denis, Fauvergue, ancien chef du RAID. Et ces gens-là, eh bien, vont faire du mercenariat sécuritaire aujourd'hui, vendre leur programme. Et là, en tant que journaliste, vous avez un rôle à jouer. Pourquoi je dis ça ? C'est pas pour vous mettre la pression, hein.
On va soucier.
Tu peux quand même. Non, mais quand vous avez face à vous quelqu'un, un politique, qui vient vous expliquer que lui, enfin, a trouvé la martingale, et dit, vous allez voir, avec justement le développement de ces sociétés privées, on va renforcer l'outil sécuritaire en France. C'est un mensonge. On va surtout remplir les caisses de ces sociétés-là et remplir les caisses de ceux qui les ont créées et qui les animent, tout simplement, parce que il y a des secteurs où il n'y a plus de police nationale. J'ai croisé une élue, elle avait été députée, elle travaillait dans la sphère macroniste, elle me disait les yeux dans les yeux, toute contente, « Ah oui, mais non, tout va bien à Marseille, on a créé un commissariat. » J'ai regardé gentiment, ça tombe bien, j'ai travaillé 15 ans à Marseille, j'ai dit « Oui, mais madame, vous en avez supprimé deux. » C'est-à-dire que pour en créer un, vous en avez supprimé deux. Et c'est partout en France comme ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de désertification et de montée de la violence dans des petits patelins qui étaient parfaitement, je dirais, épargnés par la montée de la violence et des trafics en tout genre ? C'est parce qu'on a enlevé tous les services de sécurité, police, gendarmerie. Il faut rajouter à cela les démissions en masse dont il faut parler. Pourquoi vous avez des politiciens qui vous disent, ah, en particulier dans le pouvoir actuel, on n'a jamais autant recruté ? Effectivement, cher ami, mais c'est surtout parce qu'on n'a jamais autant démissionné. Vous avez beaucoup de policiers qui quittent la boutique. Des gens comme Maurice Signolet et moi, on est des dinosaures, parce qu'on a fait toute notre carrière là-dedans. Mais nous avons connu des gens qui avaient fait, par exemple, 20, 30 ans dans la même boutique, dans la même division. C'est fini, ça. On a pulvérisé l'outil judiciaire et c'est pas fini. On continue à le faire. Je pense notamment à la réforme de Darmanin sur la départementalisation de la police judiciaire, qui est un sabotage en règle. Et il est passé sur tous les plateaux télé avec la complicité d'anciens directeurs qui d'ailleurs auraient dû avoir mauvaise conscience parce qu'eux-mêmes étaient des anciens de la PJ, mais ont participé à la casse de cet outil. Or, qui est victime de cette casse ? Mais ce sont des gens comme vous et moi, des gens qui, eux, n'ont pas les moyens de se défendre par eux-mêmes. Donc il y a tout un débat qui doit être posé sur la table. Et c'est pour ça que je vous associe, vous, en tant que journaliste, lorsque vous avez des politiciens en face de vous qui vous assurent qu'ils font le maximum. C'est faux. C'est faux. On vous ment parce que, comme l'a dit Maurice, et c'est là tout le sujet, tout le débat, nous sommes à un glissement vers des sociétés ultra-libérales tournées uniquement vers le profit, avec des sociétés ultra-individualistes, performatives au maximum, qui cassent l'outil communautaire et qui favorisent la consommation de stup à outrance.
Alors, dans votre ouvrage, vous êtes revenu sur de nombreux fardeaux, évidemment, au sein de la police, comme on vient déjà de les citer, mais malheureusement, il y en a beaucoup, à commencer par notamment la drogue et le narcotrafic. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience ?
C'est très simple. Bon, j'ai fait 10 ans, je crois que Maurice a fait une période à peu près équivalente dans cette unité. On va être très clair. C'est même pas que la bataille peut être gagnée, c'est qu'elle n'a jamais été menée. Moi, je suis très dur dans cette analyse-là, je le dis clairement, je l'écris clairement. La politique anti-narcotrafic n'a jamais été menée. Et non seulement elle n'a jamais été menée, mais surtout, on n'est plus du tout en capacité de la mener de quelque manière que ce soit. Pourquoi ? Alors d'abord, on va être très clair, c'est pas quelques fous furieux des stupes que nous étions, avec toute la bonne volonté qu'on pouvait avoir, qui avions les moyens logistiques et humains de s'opposer à des trafics qui génèrent des milliards de dollars, des milliards d'euros. Il y a tout des pans entiers d'économie dans certains pays qui fonctionnent grâce à ça. Vous rajoutez à ce phénomène propre à certains pays qui ne pourraient pas vivre sans le trafic de stupes. Je pense à beaucoup de pays d'Amérique du Sud, y compris d'Amérique centrale, je pense à certains états du Maghreb, je pense au Moyen-Orient, le Liban produisait énormément d'héroïne à une certaine époque, le Pakistan, enfin bref, entre le triangle d'or, le croissant d'or, de tout ce que vous voulez, on fabrique de la cam partout. Et cette cam, cette drogue, a un rôle social, économique et social, et y compris d'équilibre au niveau de la paix. On sait qu'en Afghanistan, il y a eu la paix à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'on laissait faire les seigneurs de guerre, on les laissait cultiver le pavot, et cette grande pantalonnade d'anticulture du pavot a totalement disparu là-bas. Et la paix est revenue dans certains secteurs parce qu'on a laissé les djihadistes reprendre la main et les seigneurs de guerre refaire leur petit boulot. Mais surtout, on vous surine à longueur de temps qu'il faut laisser la libre circulation des biens et des personnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben c'est qu'on ne contrôle plus rien.
D'accord. Ouais.
Vous avez des tonnes et des dizaines de milliers de conteneurs qui arrivent par jour dans les grands ports internationaux que sont Anvers, Rotterdam, Le Havre. Il faut voir les conteneurs. Ce sont des... Comment voulez-vous contrôler tout ça? Et ça rentre par tonnes. J'avais fait une mission à l'époque en Espagne, en 1987, avec des pégistes à l'époque. Pégistes, ça veut dire des flics qui travaillent en PJ. Hein. Des flics espagnols, très sympathiques du reste, qui nous expliquaient en 1987 qu'ils passaient à peu près 5 tonnes de cannabis par jour par la frontière maroco-espagnole. Vous croyez que ça a diminué? Bien sûr que non. Mais parce que la masse est telle, la demande est telle, qu'on ne peut pas contrôler ça. J'ai connu la brigade des stupes de Marseille. Au niveau de la sûreté, il y avait 4 groupes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut bien imaginer que ce qu'on vous présente comme lutte contre le narcotrafic, ça n'est que la bonne conscience que se donnent les États dans cette dégénérescence du contrôle de la délinquance en France et du monde criminel. Donc vous avez les Retailleau, les Darmanin. Alors là, on a, je veux dire, c'est le grand cirque là.
Oui, bah, oui.
Les opérations XXL que j'ai eu de cesse de dénoncer. Tout ça, c'est le show. Vous avez des pans entiers de la société qui fonctionnent grâce aux stupes, grâce au trafic. On a abandonné des pans entiers de villes. Je pense à Marseille. Je pense à... Et vous savez, vous avez un auteur qui est très intéressant à lire, qui n'est pas nécessairement le plus rigolo à lire. C'est Marcel Mauss.
Vous le citez d'ailleurs dans votre ouvrage.
Qui est sociologue, ethnologue, et qui explique qu'en fait, lorsque vous avez un désengagement du pouvoir régalien, un désengagement de l'État, eh bien, ces secteurs de ville, ces secteurs, ces quartiers, au départ, c'est que des quartiers, puis après, ce sont des pans entiers de la ville, recréent ce qu'on appelle le fait social total. C'est-à-dire que, comme il n'y a plus d'État, eh bien, eux, recréent ces secteurs-là, recréent une dynamique qui leur est propre. Elle peut être communautaire, mais c'est le réflexe naturel. Hein. Quand vous arrivez de l'étranger, vous cherchez quoi? Le contact avec vos co-religionnaires. Et puis, vous recréez une société en miniature, avec ses lois. Il ne faut pas croire que des quartiers, comme des quartiers où j'ai grandi, dans les quartiers nord de Marseille, sont des lieux sans droit. Non, il y a un droit, mais c'est le leur. Vous avez des tribunaux dans les caves de certaines cités. Vous avez des règles. Vous avez la peine de mort, vous avez des pénalités. Ça ne fonctionne pas sans règles. Mais ces règles échappent à ce qui nous était communément admis. Et lorsque vous entendez, rappelez-vous Castaner qui arrivait en disant, au début du quinquennat de Macron, disait, ah oui, mais il n'y aura pas un pan du territoire qui échappera à la République. C'est de la pantomime, c'est du théâtre, c'est du cirque, surtout venant de lui, quoi. Vous savez très bien que ça nous échappait totalement. Vous avez des villes où vous ne pouvez pas être maire, je pèse mes mots, sans collusion avec les gangs. C'est pas plus compliqué que ça.
Ouais.
C'est une réalité. Donc quand vous les entendez tous, on parlait donc du développement, les chiffres sont importants, ils parlent d'eux-mêmes, ils sont encore sous-dimensionnés. Les chiffres qu'annonce Maurice, il suffit d'écouter les programmations de tous les candidats. Ils vous promettent quoi? Moi, je veux recruter 1000 policiers municipaux, l'autre 8000, l'autre 10 000. On croirait une vente aux enchères de programmation politique. Tout ça, c'est du vent. C'est du vent. Parce qu'ils n'ont rien à proposer d'autre que ça. Et on pourrait parler de la politique pénale. Là,
C'est ça, parce que, si vous voulez, le narcotrafic est en fin de compte la convergence de deux dérives qui remontent à très loin. La première, c'est la dérive de la procédure pénale, que l'on connaît depuis l'arrivée de Badinter au ministère de la Justice, où on a vu que la procédure pénale a totalement désarmé la police. Et puis, la convergence d'un autre facteur, c'est non pas... On parle de territoire perdu de la République, c'est uniquement ça. On a un problème de territoire en France. Il faut savoir qu'on est passé de 25 cités dans les années 80 à près de 1500 aujourd'hui. Et c'est un véritable problème de territoire. Alors si vous voulez, la convergence de ces deux dérives majeures de la société, on a vu cette dérive. On est passé d'une justice du fait à une justice de l'auteur. Et petit à petit, on en est arrivé à une culture systématique de l'excuse dans laquelle on ne peut plus se sortir. Et parallèlement à ça, une procédure pénale qui a complètement désarmé la police. Nous, on a connu l'époque où on faisait des coups d'achat, on faisait des choses très particulières.
Ça fait partie un peu de la face obscure.
Voilà, et on était un peu des funambules de la police judiciaire, ouais. Mais enfin, ça fonctionnait. On faisait encore peur, c'est terminé ça, pour bien vous mettre ça dans la tête. Mais deuxième vecteur, je vous dis, la convergence de cette perte des territoires qui est totale. Il y a des endroits en France où c'est plus la France. Et donc, tout ça pour vous dire que quelque part, le politique, ils s'en moquent totalement. C'est pas... Qu'est-ce qui anime des gens comme Jean-Pierre et moi? On est à la retraite tous les deux, on pourrait dire on va bénéficier de notre retraite tranquille, peinard, etc. C'est semblant que on est rentré à une époque où on avait à cœur de servir l'autre. Vous voyez, c'était vraiment, c'était un véritable don de soi. Et on arrive à 70 ans, moi, maintenant, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce qu'on a pu en arriver à cette situation où on était prêt à, on avait tellement d'empathie pour nos concitoyens qu'on était prêt à risquer notre vie. Et aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas possible. La politique nous a amené dans une telle impasse pour privilégier une élite économique et faire en sorte que la paix, il y en a plus. On n'arrête pas de nous bassiner avec ce vivre ensemble, mais c'est un vivre ensemble qui devient intolérable. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on vient, avec notre expertise, dire voilà d'où c'est venu, voilà où on en est arrivé, et par contre, il va falloir se réorienter complètement. Si vous voulez, ce narcotrafic, c'est vraiment le symbole même de cette dérive sociétale qui est liée à ces deux vecteurs très essentiels, cette dérive du code pénal et de la procédure pénale, et cette dérive de cette assimilation qui ne fonctionne plus. Pourquoi est-ce qu'on n'en veut plus? Parce que, en fin de compte...
On va devoir marquer une petite pause à cet entretien, puisque c'est la chronique d'Arthur de Vatrigan tout de suite, messieurs. Mais évidemment, à 8h, nous reprenons cet entretien absolument passionnant.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Arthur.
Bonjour Malice.
Alors, qu'est-ce que vous allez nous raconter de beau aujourd'hui?
Je suis désolé de couper cet entretien, c'est passionnant. Je vais vous parler des choses un peu moins intéressantes. Je voulais revenir sur la commission d'enquête parlementaire et le rapport à l'oncle. C'est quand même un peu une actu intéressante et je pense que si France TV disparaît, ce sera moins grave que si la police disparaît, mais en tout cas, on a encore besoin de réformes comme partout. Donc, la commission d'enquête posait deux questions. La première question, c'est est-ce que l'audiovisuel public fait bon usage des moyens qui lui sont alloués? Et la deuxième, c'est est-ce que l'audiovisuel public est au service du public? Et donc, le rapport à l'oncle répond à ces deux questions, non et non. Donc, commençons par le nerf de la guerre, l'argent. La Cour des comptes, qui est sur le document principal sur lequel Charles Lalonde s'est appuyé, en tout cas, pour lancer sa commission d'enquête, la partie budgétaire, est très claire. Mauvaise gestion, gestion catastrophique, ça ne peut pas continuer en l'état. D'autant que je rappelle, France Télévisions, juste France TV, c'est presque la moitié du budget du ministère de la Culture. Sur la deuxième question, personne n'a été surpris de constater que dans le rapport que, en effet, le pluralisme manquait cruellement à l'appel. Mais moi, je reconnais que je sous-estimais sur certains canaux l'endoctrinement mis en place. L'exemple intéressant et qui fait partie d'un de ces points, c'est la plateforme Slash TV. Donc, le rapporteur recommande de supprimer. Slash TV, je rappelle, c'est la plateforme en ligne de France Télévisions destinée aux jeunes, maintenant, il paraît que Delphine Ernotte s'occupe des jeunes et dit c'est dommage pour les jeunes, ce rapport va tuer le lien entre l'audiovisuel public et les jeunes. Voilà ce que proposait Madame Ernotte dans cette plateforme. On trouvait donc évidemment la promotion de contenu pornographique transsexuel, les appels à relayer la cagnotte pour le comité Adama Traoré, des injonctions à ne pas dire bonjour madame ou bonjour monsieur parce que ça mégenrait les personnes. Évidemment, on faisait la promotion des vertus thérapeutiques des champignons hallucinogènes. Nos amis policiers sont contents. Et puis, évidemment, qu'on présentait le cannabis comme un levier de relance de l'économie. Comme chacun sait, nos dealers vont évidemment rentrer sur le marché du travail et payer de la TVA et remplir toutes les paperasses qu'on demande de remplir quand on monte une entreprise. Bien sûr. Mais il y avait eux aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que c'était pile au moment où la commission débutait, le portrait d'une certaine Madame Vanessa. Madame Vanessa, on lisait son portrait parce qu'on la présentait comme une une personne intéressante pour la jeunesse parce qu'elle a réussissait en tant qu'entrepreneur à gagner entre 20 et 30 000 euros par mois. Et le fonds de commerce de son boulot, c'était de poster des photos d'elle sur la plateforme érotico-pornographique OnlyFans. En gros, elle faisait le tapin sur Internet. Et donc, ça méritait de faire un portrait sur la plateforme Slash TV destinée aux jeunes. Alors, la question que pose Charles Lalong tout au long de son rapport, c'est comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Parce que l'audiovisuel public étant, comme son nom l'indique, un bien public, tout bien public, il est sous contrôle de tutelle ou différents organismes. Et donc, ces organismes n'ont pas fait leur boulot. Et c'est l'objet également de ce rapport, c'est essayer de, non pas de privatiser, comme certains le disent, mais de réformer. Donc, pour réformer, il faut peut-être essayer de voir ce qui a merdé au niveau de ceux qui sont au-dessus, et pour éviter que ça recommence. Alors, vous avez plusieurs... on va dégager grossièrement trois organismes de contrôle. Le premier, c'est l'État, bien évidemment, et c'est pourquoi Lalong propose un changement d'organisation, avec notamment la création d'un secrétariat d'État qui serait directement lié au Premier ministre. Puis ensuite, vous avez le comité d'éthique. Alors, on a tous découvert à ce moment de cette commission qu'il y avait un comité d'éthique à France Télévisions, on l'ignorait. Sauf que le problème, c'est qu'on a vu aussi les résultats de ce comité d'éthique sur l'affaire Le Grand Cohen, donc comité d'éthique qui a été appelé à la rescousse. Et donc, Madame Balbanen, qui est la présidente du comité d'éthique, a expliqué que le groupe, donc en fait, c'est censé être un organe indépendant, le groupe lui a dit « il faut vite que tu rendes un avis, mais très rapidement, s'il te plaît ». Et donc, le comité d'éthique, en toute indépendance, a rendu un avis très rapidement, dans l'urgence, sous pression, en disant qu'il n'y avait pas de souci, sachant que, étant donné que j'étais un peu au courant des choses, ils ne m'ont pas demandé, ils m'ont pas appelé, ils ne m'ont pas demandé l'intégralité des rushs, ils ne m'ont pas demandé le conseil d'huissier, bref, ils n'ont rien demandé, aucune preuve matérielle pour essayer de juger en toute indépendance et en toute objectivité. Et le troisième, c'est l'ARCOM. Et là, vous savez, l'ARCOM publie un rapport tous les ans. Et ce rapport, il faut le lire, c'est vraiment hyper intéressant. On y trouve des choses très intéressantes. Par exemple, sur le rapport de l'ARCOM publié en 2026 sur l'exécution du cahier des charges 2024. Et donc, on y trouve sur la partie, le chapitre « Obligations relatives au pluralisme et aux campagnes électorales ». Premier trimestre 2024, l'ARCOM confirme qu'il y a eu des manquements et donc ils ont tapé sur les doigts de France Télévisions, de Radio France. Et le deuxième trimestre, rappelez-vous, nous avons eu deux campagnes. Une campagne européenne, puis une campagne législative. Je cite le rapport de l'ARCOM. « Devant l'importance du volume horaire consacré par la majorité des chaînes à la couverture des élections européennes et législatives, l'ARCOM a décidé de ne pas porter d'appréciation sur le temps de parole. » Donc, ils sont garants du pluralisme. Il y a deux campagnes, et les mecs, ils disent « Ah non, il y a trop de boulot, on ne va pas le faire. » Donc, alors, on va être honnête quand même, c'est que l'ARCOM vérifie aussi si le cahier des charges est respecté, c'est-à-dire si les missions de TV de France TV sont respectées. Et là, on tombe sur un autre sujet intéressant, relevé d'ailleurs par Charles Lalong, c'est sur la diversité. Et donc, ce même rapport explique que France TV respecte le cahier des charges, éprouve par la même occasion que la diversité non seulement n'est pas traitée par France TV comme un simple impératif de représentation, mais comme un acte structurant sa politique éditoriale. Parce qu'il se félicite que le groupe revendique des formations internes intitulées « Luttons contre les stéréotypes à l'antenne ». Il se félicite qu'il y ait une vigilance sur l'intersectionnalité et une clause « Diversité » renforcée dans les contrats avec les producteurs. Mais qu'est-ce qu'on entend dans cette clause « Diversité » ? Là, il précise également, il mentionne « La volonté de renforcer à l'antenne la présence de personnes perçues comme non blanches et de minorités sexuelles ». Voilà, c'est ça la diversité, et donc ils respectent la diversité. C'est pourquoi l'une des 69 recommandations de Charles Lalong porte sur la diversité, évidemment. Je crois que c'est la recommandation numéro 5, celle de modifier la loi de 86 pour redéfinir la diversité avec des critères objectifs. Opinion, territoire, milieux sociaux, bref. C'est une des recommandations les plus directement politiques du rapport. Alors, puisque nous sommes sur les recommandations, il y en a une qui est assez intéressante. Elle concerne les éditorialistes. Alors, il y a des minorités militantes, évidemment, qui entrent comme dans du beurre dans toutes les institutions, qui ont perdu le sens de leur mission. Ça, ils savent toujours faire. Mais vous avez aussi une part de bonne foi dans un conformisme, en fait, qui s'ignore. Regardez Patrick Cohen. Il est intimement persuadé d'être neutre.
Oui.
Dans un débat qu'il avait... qui a été publié dans le Figaro avec Mathieu Bocoté, Il se définissait lui-même comme un faux éditorialiste. C'est-à-dire qu'il ne donnait pas vraiment son avis, en fait. Il ne donnait que des faits. Or, le problème, c'est qu'il ne vous a pas échappé que depuis... Nous sommes plus au lendemain de la chute du mur. Il vit la fin des grands affrontements idéologiques disparaître au profit de la rationalité marchande. Et donc, en fait, les grands débats, c'était quel taux de CSG, quel taux de TVA. Depuis 20 ans, le fait partisan est revenu. Et donc, le débat, c'est plus sur on va faire combien d'économies et est-ce qu'on fait, on décale l'impôt de 3 jours ou de 4 jours. Mais c'est des questions beaucoup plus profondes qui touchent à notre existence et à notre civilisation. Et donc, forcément, la confrontation est un peu plus violente. Et c'est pourquoi nous avons de plus en plus besoin de confrontations, de débats, au lieu d'avoir des invectives par médias interposés ou par réseaux interposés. Et donc, on se dit que c'était peut-être aussi la mission de l'audiovisuel public, c'était justement d'être cette agora qui n'existe plus, où justement les cervelles se frottent, se confrontent, et parce que nous sommes dans une démocratie, donc a priori tout le monde a le droit de donner son opinion, et puis on a le droit de débattre, et c'est de là que du débat que des problèmes complexes, parce que quand on est sur des questions existentielles ou civilisationnelles, c'est jamais simple, des problèmes complexes peuvent trouver des réponses. Mais l'opposition, visiblement, est assez forte, parce qu'on l'a vu avec notre consoeur Eugénie Bastier, qui était annoncée comme intervieweuse dans l'ancienne nouvelle émission L'heure de vérité pour la rentrée de septembre, en compagnie de Benjamin Duhamel et de Marc-Olivier Fogiel. Donc le principe étant d'interviewer des politiques. Là, c'était le branle-bas combat dans le bunker, avec en première ligne la Société des journalistes de France 2. En fait, ils ne veulent pas de pluralisme, ils veulent garder leur précaré, c'est-à-dire la privatisation en loose day. Donc maintenant, regardons ce qui va se passer sur les différentes recommandations. Vous avez, sur les 69 recommandations d'un oncle, vous en avez une trentaine qui peuvent se mettre en place directement par les sociétés concernées, donc France Télévisions, Radio France. Parmi ces recommandations qui peuvent se mettre en place, par exemple, vous savez, la fin des animateurs-producteurs, qui concerne Nagui et tout ça. Donc un sujet qui est directement lié au budget. C'est-à-dire arrêter que des gens croquent comme ça sur le dos de la bête. Vous en avez une quinzaine qui doivent se faire par décret ou par arrêté, donc c'est-à-dire directement par le gouvernement, comme par exemple la fusion des chaînes France 2 et France 5. Et puis vous en avez une dernière quinzaine qui doivent obligatoirement passer par le Parlement, comme justement ce dont je parlais, la redéfinition légale de ce qu'est la diversité. Et lorsqu'on a vu la réaction de Delphine Ernotte, qui finalement se révèle très conservatrice pour une personne qui se dit progressiste, parce qu'elle n'a rien changé. On se dit que c'est mal barré, qu'elle ne va pas mettre des changements, elle ne va pas opérer des changements. Et puis on a vu celle du Premier ministre Le Cornu, qui affirme que le rapport à Longue passe à côté de l'essentiel. Donc on attend toujours de comprendre ce que c'est que l'essentiel. Et quant au Parlement, vu la configuration politique, c'est quand même mal embarqué, puisqu'on a un foutu de faire passer une loi, puisqu'il n'y a pas de majorité. Donc conclusion, à Longue l'a mené cette commission, a pondu un rapport très intéressant, mais qu'on peut discuter évidemment, mais au moins propose des solutions pour essayer de sauver l'audiovisuel public. La tâche est immense, mais malheureusement, il ne faut pas s'attendre à grand-chose avant la prochaine présidentielle, puisque ceux qui ne sont pas contraints ne feront rien, et que pour être contraints, il va falloir un coup de pression du politique, et le politique, aujourd'hui, est en immobilisme total.
Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de L'Incorrect. Et chers auditeurs, il est 8h02. Alors si vous voulez continuer à entendre ces passionnantes chroniques d'Arthur de Vatrigan, mais aussi les propos tout aussi pertinents de Jean-Pierre Colombiès et Maurice Signolet sur Radio Courtoisie, eh bien Arnaud a un petit message pour vous.
Il est indispensable que vous nous souteniez financièrement. Vous pouvez donc nous faire des dons en ligne si vous le souhaitez en vous rendant sur cette adresse. Notez-la bien, soutenir.rc.fr. Et puis vous pouvez également nous adresser vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Arnaud. Et tout de suite, on reprend cet entretien.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Alors Jean-Pierre Colombiès, moi il y a un chapitre qui m'a particulièrement marqué dans votre ouvrage, c'est celui sur la franc-maçonnerie. Mm-hmm. Vous nous confiez avoir été donc franc-maçon et syndicaliste, et vous nous expliquez aussi donc dans ce chapitre comment la franc-maçonnerie a noyauté la police. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ?
La noyauté, c'est un bien grand mot, c'est un mot que j'emploie pas d'ailleurs. Mm. Je dis pas qu'elle a noyauté, je dis qu'elle a, comme dans beaucoup d'autres institutions, son influence, et une influence très marquée, que j'ai eu à constater parce que j'en ai pas bénéficié, j'en suis parti, hein, faut oui. préciser que j'en suis parti, comme du syndicalisme du reste, parce qu'il y a dans le concept qui part d'une excellente idée, hein, qui part d'une idée supérieure, on va dire ça comme ça, est en fait mise au service dans bien trop des cas, bien trop de cas, et mise au service de, je dirais, de promotion individuelle, d'ambition personnelle. Bon, on pourrait en débattre pendant très très longtemps, hein, parce que c'est, bien évidemment, c'est pas aussi clair que ça du point de vue de l'extérieur. Mais on a trop souvent vu des promotions parfaitement injustifiées au détriment d'autres personnels qui l'auraient au moins autant mérité. Et au bout d'un moment, ça fatigue, ça use, ça agace. Et au-delà de ça, vous savez, il y a une obligation fraternelle qui est imposée par la franc-maçonnerie, qui est de se rendre service. Du moins, d'assister fraternellement ceux qui seraient, qui appartiennent à la même association, à la même, cette même fraternité. Alors moi, j'ai rencontré des gens formidables. Hein. Mmh. Attention, hein, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Bien sûr.
Et puis, j'ai rencontré des gens qui vivaient au travers de ça. C'est-à-dire qui avaient compris qu'ils pouvaient se servir de ça, y compris dans la police. Et j'ai envie de vous dire, surtout dans la police. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ambition de la franc-maçonnerie, c'est d'élever, alors c'est un grand principe, hein, c'est élever les consciences par le rayonnement personnel, mis en commun donc avec d'autres frères, et de faire profiter son environnement de cette lumière, puisqu'on qualifie les francs-maçons de fils de la lumière, donc fils de la connaissance. Et puis, on se rend bien compte, vous savez, c'est comme dans une église, hein. Vous entrez dans une église, il y a des gens qui sont parfaitement convaincus, qui sont croyants, sincèrement, et puis vous avez des gens qui sont là en se disant, bon, bah, c'est peut-être un moyen aussi d'appartenir à un réseau et d'en tirer profit. Et donc, de fait, ça conduit à se servir de cette association d'un point de vue strictement mercantile. Moi, on m'avait dit, tu verras, on ne te demandera rien parce que tu es policier. Bon, enfin bon, une des premières choses qu'on m'a demandé, c'était de faire sauter des PV.
Ah oui.
Et ça encore, c'est pas encore le plus grave. Bon, j'ai pas été soumis à des pressions ou à des demandes qui m'auraient mis en danger quelque part. Mais il y a des cas où effectivement, il est arrivé que des gens, des policiers ou d'autres, se mettent purement et simplement en danger de mort parce qu'ils se sont engagés, ou du moins ils ont voulu respecter cet engagement d'assistance confraternelle qui peut amener à tout simplement dériver de la loi, quoi. Et dériver du sens commun, tout simplement. Ouais. Je persiste et je signe. Ça n'est pas l'institution en soi qui est problématique. C'est tout simplement que des brebis galeuses y sont entrées et ont prospéré et se servent de cet outil-là pour en retirer des avantages personnels. Je cite des avancements parfaitement injustifiés de gens qui étaient parfaitement incompétents et qui sont passés avant les autres, tout simplement. Et quand vous êtes concerné, vous dites, et que d'autres sont concernés, il y a une forme d'injustice qui est là, qui est parfaitement insupportable. Ce qui ne veut pas dire que tous les francs-maçons sont des profiteurs ou qu'ils vont tous à la gamelle. C'est pas ça l'idée. Mais le peu qui passe, le peu qui s'en... Enfin, du moins, ceux qui en profitent, eh bien, renvoient une image très négative de l'institution. Et ça, c'est pas acceptable. Vous savez, la plupart des beaucoup de commissaires appartiennent à la franc-maçonnerie, beaucoup de hauts directeurs, et c'est logique. Pourquoi ? Parce que pour influencer la société, il faut avoir avec soi des gens qui sont en capacité de le faire. C'est comme la corruption. Vous n'allez pas corrompre. L'intérêt d'un corrupteur, d'un voyou, d'un délinquant, c'est de corrompre les plus hauts niveaux de responsabilité, pas les niveaux les plus inférieurs. Donc c'est un jeu de donnant-donnant qui renvoie à Marcel Mauss d'ailleurs, cette obligation du don, cette notion du don, je te rends service, tu me rends service, et on entre dans un cercle vicieux dont après il est très difficile de sortir. Parce que dès que vous rentrez dans un système de compromission, vous êtes redevable. Vous êtes redevable. Et il y a effectivement un croisement d'intérêts qu'on trouve. Alors, on ne va pas faire l'historique de la franc-maçonnerie non plus, on y passerait 50 minutes, ce serait vraiment trop court. Mais vous vous retrouvez à un moment donné dans un circuit, dans une toile d'araignée, qui fait qu'il est très compliqué de garder une ligne d'indépendance. Voilà, c'est l'idée.
Alors moi, je suis un ancien commissaire divisionnaire. Donc je faisais partie de la haute hiérarchie, paraît-il, hein, mais j'ai jamais été franc-maçon, hein, faut le savoir. J'ai même été jamais approché. Il faut savoir que on est quand même, Jean-Pierre évoquait le côté positif de la franc-maçonnerie, on est quand même très très loin des conventions de Andersen qui remontent à 1723.
Oui.
On en est quand même très loin. Alors par contre, pour être beaucoup plus terre à terre, il faut savoir que on a évoqué tout à l'heure les dérives sociétales, les dérives politiques dans l'institution. Ça a eu une conséquence tragique, c'est que même au-delà de la franc-maçonnerie, qui est effectivement, comme le disait Jean-Pierre, un système de renvoi d'ascenseur, on a vu arriver une hiérarchie d'obéissance qui est venue supplanter une hiérarchie de compétences. Et ça, c'est ce que l'on a...
Qui rejoint la militarisation, voilà. Qui est complétée par la militarisation, d'ailleurs.
C'est ce que l'on connaît aujourd'hui, hein, et c'est ce qu'on déplore. Moi, quand je suis rentré dans la police, un taulier, un patron, c'était un patron, quoi. C'est quelqu'un qui faisait référence, c'est quelqu'un vers qui on se tournait, parce qu'on était sûr de son expertise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça a des conséquences terribles, parce que la base est parfaitement au courant de ça. C'est parfaitement que, en fin de compte, si vous montez les échelons, c'est qu'en fin de compte, vous avez rendu service à quelqu'un, vous allez rendre service à quelqu'un, etc. Et petit à petit, ça a miné l'institution. Toute l'institution est minée parce que, comme la base est au courant de ça, elle doute de sa hiérarchie. Vous voyez, elle se dit, elle n'a pas véritablement la compétence ni la légitimité. Ça a l'air de rien, mais ça a miné l'institution. Ça a sapé l'institution. Donc, ces espèces de renvois d'ascenseurs systématiques que j'ai connus, hein, c'était infernal. C'en était même tragicomique. Hein. On a vu des gens arriver. Je sais plus. Il y a un livre qui est sorti là pour expliquer la cathocratie. Je sais plus comment quel est le terme exact pour dire que on arrive au pire, quoi. La hiérarchie devient ce qu'il y a de pire qu'on pourrait imaginer. Et c'est ce qui se passe dans l'institution policière, mais on peut le rapprocher aussi de la gendarmerie qui, vous voyez, aussi cru que ça puisse paraître, autant la police s'est militarisée, autant la gendarmerie a voulu verser à l'inverse.
D'accord.
Vous voyez, et donc, on le voit bien.
Vous savez, l'importance
qu'ils ont maintenant au niveau du judiciaire, par exemple, qu'ils n'avaient absolument pas il y a 40 ans, on voit bien qu'il y a une espèce d'inversion. Donc, c'est tout le système policier qui est en fin de compte, qui est vérolé quelque part. C'est ça qu'il faut dire. Alors, pourquoi est-ce que nous, on lance ce cri d'alarme? Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, il va bien falloir inverser la tendance. Parce que on n'assure plus la paix du quotidien. Vous voyez, on se focalise sur l'exceptionnel. Moi, vous voyez, j'étais assez content de voir que les collègues de la BRI avaient été décorés de la Légion d'honneur, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit dire d'un gardien de la paix qui intervient quotidiennement? Si vous voulez, on va favoriser l'exceptionnel pour en fin de compte occulter la réalité, le quotidien.
Le quotidien.
À quoi aspirent les Français? Qu'on leur vole pas leur vélo, quoi. Qu'on vienne pas leur cambrioler leur cave, qu'ils soient tranquilles dans la... Mais à la limite de savoir que la gendarmerie a survolé avec des drones, etc., etc.
Oui.
Voyons, quelque part, ça n'arrange pas la sécurité du quotidien. Et ça, par contre, la sécurité du quotidien, le politique, ça ne l'intéresse plus. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Le gardien de la paix, on veut le transformer en gardien de l'ordre, c'est tout.
Vous avez un ouvrage qui est essentiel pour comprendre tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Et vous avez des penseurs qui ont pensé bien avant moi, comme Hannah Arendt, qui décrit justement ce qu'est la banalité de la médiocrité lorsqu'elle est portée au plus haut niveau de la responsabilité. Comment ça fonctionne? Vous avez des présidents, parce que ça commence de là, hein, qui, pour asseoir leur autorité, de petits tyrans, je vous renvoie aussi à la Boétie, le discours sur la servitude, un tyran qui veut régner sans partage, et avec beaucoup de sérénité, il va s'entourer de quoi? Mais de gens redevables, de gens médiocres, mais qui vous doivent tout. Et vous retrouvez cette mécanique du positionnement des médiocres, au travers du livre d'Anna Arendt sur le procès Eichmann, où elle décrit, en décrivant Eichmann, un type parfaitement mais neutre, qui est un bon petit bureaucrate, un scribouillard. Et ça fonctionne comme ça. Vous avez un ministre qui s'installe quelque part, un Darmanin ou un Retailleau ou un autre, hein, pour tenir le coup. Eh bien, il faut qu'il assure la promotion des gens les plus serviles, Il y a un commissaire qu'on a connu au stup, moi que j'ai connu, que Maurice a dû connaître aussi, le Gallo, qui était un type qui avait une ossature, qui a eu le malheur de contredire un jour Sarkozy lors d'une réunion au ministère de l'Intérieur, qui s'est retrouvé dégagé du jour au lendemain. J'en parle dans mon bouquin. Ouais. Et il s'est retrouvé dégagé à faire des audits bidons auprès de l'IGPN. Mmh. Et à côté de ça, ce ministre Sarkozy de l'époque s'est entouré de gens qui étaient des carpettes, faut appeler un chat un chat, mais qui ne le contrariaient pas. Et c'est là où vraiment le système dérive. Et c'est pour ça qu'il faut écrire des bouquins comme celui-là, pour rappeler à l'éveil des consciences, pas simplement des journalistes, puisque vous lisez aussi, vous avez des gens comme Maurice et moi qui viennent vous expliquer ce qu'il en est. Mais quand vous avez, ou des politiciens, ou quand vous avez l'occasion d'expliquer à des gens qui ne sont pas du milieu, réveillez-vous les gars, interrogez et secouez les politiciens qui vous entourent, des députés, des sénateurs. Dites-leur les yeux dans les yeux, arrêtez de nous mentir, arrêtez de nous tenir une langue de bois qui est insupportable, parce que vous ne nous protégez pas, vous ne nous protégez plus, vous protégez vos intérêts. Et comment voulez-vous lutter contre quelque trafic que ce soit, lorsque vous avez des députés, des sénateurs, des ministres qui s'en mettent plein de pif et qui après vont vous faire la morale? Vous savez ce que je déteste? Quand je parle de face obscure de la police, je parle aussi de la mienne, et moi je l'assume. On a fait des trucs dégueulasses quand on était au stup, parce que ce milieu est dégueulasse. Tout simplement, c'est un milieu d'ultra-violence et qui est pour moi le milieu le plus pourri de la délinquance, le milieu de la drogue. Ok, mais moi je l'assume. Mais quand vous avez des ministres qui viennent vous faire la morale, alors que pour attribuer un logement social, ils ont demandé des rapports sexuels consentis, vous m'excuserez. Mais enfin, on est quand même un petit peu au-delà de l'éthique.
Alors, merci beaucoup.
On n'a pas non plus de preuves là-dessus. Ça a été classé en non-lieu, je précise, pour Gérald Darmanin.
Je crois que vous ne connaissez pas très bien cette procédure. Non. Ça n'a pas été classé pour. Ça a été classé pour viol, mais pas pour rapport consenti. C'est pas la même chose. Non, mais la procédure.
Je préfère simplement qu'on soit précis, mais très bien. Merci d'avoir précisé.
Si vous voulez, on peut en parler.
On a malheureusement plus le temps.
Je peux vous expliquer la procédure à Bade aussi.
On vous réinvitera.
Alors sinon, ça me revient maintenant. Je crois que c'est la cacistostre. Kakistocratie. Hein, ça vient du grec
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cet entretien absolument.
Pas facile à dire, kakistocratie.
Faut le caser, ça.
C'est clair. Absolument passionnant. Alors, chers auditeurs, si cet entretien vous a donné l'eau à la bouche, je vous suggère de vous procurer cet ouvrage de monsieur Colombiès, La face obscure de la police. Merci beaucoup, messieurs. Et nous, on vous réinvitera pour en parler plus amplement. Merci beaucoup.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être ici ce matin avec nous. Écoutez, dans un instant, nous recevrons Hervé de Lépineau, nouveau maire de Carpentras, qui nous parlera de justement ces nouveaux défis, les nouveaux défis des nouveaux maires RN. Mais juste avant, un petit point sur l'actualité avec Magda Hautefeuille.
Ce mardi s'ouvrait le premier procès suite au scandale du périscolaire parisien, celui d'un ancien animateur de 47 ans poursuivi pour harcèlement sexuel sur 9 fillettes de CM2. Et pourtant, à l'issue de l'audience, le parquet a requis seulement 18 mois de prison avec sursis probatoire. Pas de prison ferme demandée et l'homme est aujourd'hui sous simple contrôle judiciaire. Le jugement sera rendu le 16 juin prochain. Aux nouvelles polémiques autour du canon français, le recteur de la Grande Mosquée de Paris estime que ce type d'événement enverrait le message que certains ne sont pas chez eux en France. Oui, ce sont encore des propos complètement absurdes. Ou encore d'exclure symboliquement une partie de la population, notamment parce qu'on y sert du porc. Et la gastronomie française n'a pas à s'excuser d'exister. Enfin, le projet Liberté, censé rouvrir le détroit d'Ormuz, a été suspendu par Donald Trump pour tenter d'arracher un accord avec l'Iran. Et enfin, nous célébrons ce 7 mai Sainte Flavie et la bienheureuse Gisèle.
Merci Magda.
Ligne droite.
Et juste avant de recevoir Hervé de Lépineau, nous voudrions évoquer un petit peu avec vous, chers auditeurs, un point qui nous semble assez essentiel, c'est que Maëlys Clozel, ce mois-ci, va réaliser deux déplacements. Le premier, ce sera, je crois, la semaine prochaine.
Tout à fait, Alexandre.
À Londres. Alors dites-nous en plus.
Effectivement, Tommy Robinson, comme en septembre dernier, organise une grande mobilisation à Londres pour encore une fois défendre la liberté d'expression et aussi évidemment défendre le fait de dire qu'on en a marre de l'immigration de masse. On peut le dire. Et Tommy Robinson défend défend tout à fait bien cette liberté. Donc ça sera encore une fois une énorme mobilisation avec des marées humaines absolument grandiose. Donc je vais y aller pour une fois de plus vous faire un super reportage, et puis je vais également interroger, c'est mieux ici, oui. Le cher Tommy Robinson, même si on parle en anglais, on reste quand même on garde le français. Et puis aussi mon second
et j'allais le dire, second ouais. déplacement, alors toujours lié à l'immigration, c'est le sommet de la remigration.
Tout à fait, le sommet de la remigration, là où seront au rendez-vous des grands intellectuels comme Jean-Yves Le Gallou, que nous recevons très souvent, puis aussi Martine Selner, avec qui j'ai fait un entretien aussi très récemment.
Martine Selner, donc activiste identitaire, oui. qui est désormais à l'échelle européenne entière.
Tout à fait, c'est la figure qui a popularisé le thème de la remigration, donc voilà, ça sera une journée pleine de débats. Là où on expliquera par A plus B à quel point la remigration est essentielle et surtout à quel point elle est possible. Donc, chers auditeurs, un programme tout à fait alléchant, et évidemment, je vous suggère de rester à l'affût de ces vidéos.
Et sachez que tout cela, pour ceux qui nous écoutent, eh bien, on le publie régulièrement, soit alors parfois à l'antenne, mais surtout sur nos réseaux sociaux, oui. donc Twitter et Instagram principalement, aussi Facebook, et puis même TikTok d'ailleurs maintenant.
Tout à fait, on s'y met.
Et puis à côté de ça, le deuxième élément, c'est que c'est des reportages que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube. Vous savez, ces temps-ci, YouTube et les algorithmes sont particulièrement difficiles, donc on vous invite vraiment, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à nous et à regarder les entretiens de Ligne Droite. Ça vous permet de les retrouver très facilement, et ça vous permet de les retrouver très facilement, même justement voilà, en rediffusion, quelque chose qui est assez simple. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, et évidemment à nous faire des dons pour permettre ces reportages. Merci beaucoup, Maïlys.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, nous recevons Hervé de Lépineau. Hervé de Lépineau, bonjour. Vous êtes député et maire, enfin ancien député donc du Vaucluse et désormais maire de Carpentras. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Oui, bonjour. Alors, je suis toujours député.
Ah.
Je suis député maire de Carpentras et j'insiste sur cette nomination puisque je fais partie de ces parlementaires et de ces citoyens qui souhaitent le rétablissement du cumul des mandats.
Alors bah déjà, on peut peut-être commencer sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui avait été aboli sous François Hollande pour éviter justement... l'objectif à l'époque était de dire on ne peut pas cumuler à la fois ces deux fonctions qui sont très prenantes d'une certaine façon. C'est vrai que vous avez été député, vous savez que c'est un travail à plein temps. Comment est-ce qu'on peut avoir deux travaux à plein temps ?
C'est une question d'organisation, une question d'envie, une question de capacité aussi, mais je tiens à rappeler que ce statut du parlementaire maire a existé sous la 3e, la 4e et la 5e République, et il ne me semble pas que les débats parlementaires sur ces périodes aient été dégradés, bien au contraire, et que les mairies étaient mal gérées.
Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui... Alors, c'est parce qu'on imagine que c'est évidemment l'objectif. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui permettrait peut-être de reconnecter le député à son territoire ?
Ben, totalement, puisque gérer une mairie, c'est gérer le quotidien des Français résidant dans la commune. Donc, ce sont des considérations extrêmement simples, triviales, quotidiennes, et qui permettent à un parlementaire de réaliser ce que ses concitoyens vivent. Or, nous avons constaté depuis 2017, avec l'arrivée des petits marquis macronistes, cette totale déconnexion entre le parlementaire censé rédiger la loi et les aspirations du peuple.
Alors, on va maintenant arriver un petit peu au cœur de l'entretien. Donc, je rappelle que, suite au second tour des élections municipales, vous avez été élu à la majorité absolue et vous avez été élu face aux socialistes, enfin, face à des maires divers gauches. En tout cas, dans quel état est-ce que vous avez retrouvé votre mairie ?
Alors, je la retrouve comme après une gestion socialo-écolo-communiste, très endettée.
86 millions d'euros de dette, c'est ça ?
Voilà 86 millions de dettes, donc ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que vos marges de manœuvre pour les investissements à venir sont extrêmement réduites, d'autant plus que la Chambre régionale des comptes a rendu un rapport en novembre dernier indiquant que la commune de Carpentras est arrivée au maximum de l'endettement possible et que par conséquent, il va falloir commencer à vider ce stock de dettes et surtout diminuer les dépenses de fonctionnement. Mmh.
Oui, parce que alors c'est évidemment une problématique qui est toujours difficile. 86 millions de dettes, en fait, on se représente pas exactement ce que c'est. C'est un chiffre qui semble impressionnant, mais comment ça se compare, par exemple, à une autre mairie d'environ 30 000 habitants ?
Alors voilà, on raisonne toujours en commune dite de même strate. Mmh. Eh bien, l'endettement par habitant à Carpentras est le double de la strate de 30 000 habitants. Donc, on est grosso modo, nous, à 2003 par habitant, quand la moyenne des villes de même strate se situe à 1100-1200. Mmh.
Et alors justement, c'est quelque chose qui est sans doute lié, mais on sait que vous avez reporté la construction de deux projets dans votre ville, notamment un gymnase. Est-ce que c'est lié justement à cet état de la dette ?
Oui, parce que j'ai pas les sous. Mmh. J'ai dû bloquer ce qu'on appelle les ordres de service pratiquement le lendemain de mon élection. Parce que j'ai constaté très rapidement, grâce entre autres à une alerte des services, que ce projet n'était absolument pas financé. Mmh. Donc c'est pas tout de faire de la démagogie auprès des électeurs en disant « Regardez, vous revotez pour moi, je vais pouvoir engager les travaux d'investissement quand vous n'avez pas l'argent pour. Mmh. »
Donc,
j'ai pu intervenir, je dirais, au bon moment. J'ai expliqué aux associations sportives concernées par le projet pourquoi j'étais obligé d'arrêter et de différer, étant précisé par ailleurs que nous avons un investissement structurant à faire pour la ville, c'est la reconstruction de notre salle polyvalente qui a été détruite par un incendie criminel il y a bientôt 4 ans. Mmh.
Et donc, oui, alors la question qui se pose, c'est avec une telle dette, comment est-ce que vous faites pour mener des projets ? C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on attend d'un maire, c'est-à-dire que c'est pas seulement rétablir les comptes, c'est également justement pouvoir porter des projets pour sa ville, pouvoir construire ou alors rénover des infrastructures, pouvoir avoir des services publics de meilleure qualité. Comment vous faites pour faire ça alors que bien la dette est de 86 millions d'euros ?
Le principe est de retrouver de la marge d'autofinancement.
Ouais.
Cette capacité d'autofinancement, et là, il n'y a pas 36 solutions, c'est de diminuer vos charges de fonctionnement. Donc, on va traquer les mauvaises dépenses, pouvoir faire de la synergie, de la mutualisation là où on peut en faire, réorienter le tableau des effectifs. Je ne remplacerai pas les postes vacants suite à un départ à la retraite ou une démission dans des fonctions dites purement administratives, quand je dois par ailleurs embaucher des policiers municipaux. Mmh. Et ensuite, c'est reprendre le stock de dettes, voir ce que l'on peut renégocier en termes de taux, voir s'il y a possibilité, si je dégage une marge, de rembourser peut-être un prêt par anticipation, pour pouvoir retrouver de l'oxygène pour le budget de l'année prochaine.
Est-ce que vous avez un objectif sur 6 ans, justement, de réduction de la dette ? Est-ce que vous vous dites, dans 6 ans, je veux qu'on soit à X millions d'euros de dette ? Est-ce que c'est comme ça que vous raisonnez ?
Alors, l'objectif, c'est de revenir à l'endettement des villes de même strate.
Oui.
Mais je ne vais certainement pas commettre l'erreur commise par de nombreux exécutifs dits de droite, qui n'avait qu'une seule obsession, c'était d'absorber la dette. Donc, moralité, il serrait tous les budgets pendant la durée du mandat, n'investissait plus. Et lorsque les caisses étaient reconstituées, ils étaient battus aux élections qui suivent par ceux qui allaient s'empresser de vider à nouveau la cagnotte. Mmh. Donc, il faut avoir une approche en bon père de famille. Tout foyer français a ce qu'on appelle un taux d'endettement admissible. Eh bien, nous ferons la même chose pour la ville de Carpentras.
Mais donc, ça veut dire que votre ambition, c'est en 6 ans d'économiser l'équivalent d'un an de budget, enfin de faire perdre en dette un an de budget de la ville ?
Je pense qu'on n'y arrivera pas sur un mandat, il en faudra deux.
Mmh. Alors du coup, il faudra que vous soyez réélu. Bon, on en reparlera peut-être.
Enfin, Hervé de Lépineau réélu ou son successeur au sein de l'équipe. Enfin voilà. Fait tirer des plans sur la comète en ce moment en politique, c'est très compliqué.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais donc du coup, on comprend que au niveau municipal, le Rassemblement National, il y a quand même un petit peu de lignes. C'est-à-dire que, par exemple, d'un côté, il y a la ligne, on va dire Hervé de Lépineau, mais qui est aussi incarnée par d'autres, bien sûr. Donc celle, effectivement, qui consiste à faire des coupes dans les dépenses pour pouvoir rétablir un budget dans la ville. Et il y a également, par exemple, aussi une ligne qui va être un petit peu plus présente dans le nord de la France. Je pense notamment à Steve Briouat qu'on est allé voir en reportage il y a durant les élections et qui lui pour le coup certes a coupé dans les dépenses mais aussi va créer des logements sociaux, va aussi dépenser de l'argent pour aller dans que ça aille dans de nouveaux projets. Est-ce que les deux sont incompatibles pour vous? Est-ce qu'il y a deux lignes au RN au niveau municipal?
Il n'y a pas de ligne. D'abord, je tiens à rappeler que Steve Briouat attaque son troisième mandat.
Ouais.
Mine de rien, quand vous avez déjà deux mandats au compteur, généralement le travail d'assainissement des finances publiques a été fait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous parlez des logements sociaux. Carpentras est à peu près à 22% de logements sociaux. C'est-à-dire que nous sommes totalement dans le cadre de l'objectif de la loi SRU, qui est une très, très mauvaise loi, hein, soyons honnêtes. Là où la France périphérique, la France profonde n'était pas concernée par les problématiques de délinquance de masse, avec cette loi qui a imposé du logement social, donc de l'importation d'une population qui n'était pas, je dirais, installée de manière ancienne dans ces communes, et à la déloquence est arrivée avec tous les effets de bord que l'on connaît. Donc moi, je n'ai pas ce problème de construire des logements sociaux, et de toute façon, ce n'est pas la commune qui les finance. Ce sont des OPH qui s'en chargent. Vous avez des financements d'État. Donc, par conséquent, je n'ai pas cette problématique. Et je vais quand même continuer à investir, mais dans la limite de ce que je peux faire. Mmh. Et vos auditeurs doivent savoir qu'à Carpentras, j'ai un bateau amiral culturel qui s'appelle Lingabertine, donc qui est l'association d'un musée national et d'une bibliothèque remarquable, qui grève mon budget de 5 millions d'euros par an.
Ouais.
C'est-à-dire que mes prédécesseurs ont décidé d'une infrastructure culturelle qui est disproportionné en coût de fonctionnement par rapport à ce que la ville est capable de produire en termes de richesse.
Et alors, ce qui est justement intéressant dans ce que vous dites, Hervé de Lépineau, c'est que c'est une question que je voulais vous poser. La gauche attaque régulièrement les mairies RN en disant que finalement, le Rassemblement National est contre la culture parce que il y a des coupes dans les subventions qui arrivent souvent. Qu'est-ce que vous répondez finalement à cette accusation? Parce que il faut dire que effectivement, c'est souvent ce qui se passe quand un maire RN arrive au pouvoir, c'est que le budget de la culture est au moins réduit.
Alors, il ne faut pas confondre culture et copinage culturel. En réalité, ce copinage culturel a existé à Carpentras, puisqu'on a évalué à près de 2 millions d'euros les subventions accordées au spectacle. Et un spectacle, je rappelle que c'est one shot. Hein. Une fois que l'artiste est passé, au revoir, il faut passer au prochain. Eh bien, j'ai pu constater avec effarement que les sociétés de production amies de la précédente majorité avaient droit à l'entrée, au plat, au dessert, au café, au pousse-café. Je m'explique. On verse une subvention à la société de production qui, par ailleurs, va récupérer l'intégralité de la billetterie. Et en plus, la commune doit mettre à disposition les infrastructures.
Oui, donc c'est 100% perdant.
Ah, mais 100% perdant. Donc, j'ai mis un terme à cette manière d'organiser le spectacle vivant, partant du principe que la commune, à partir du moment où elle participe déjà activement par la mise à disposition des infrastructures, doit à minima récupérer quelque chose sur la billetterie.
Alors justement, donc je précise, ça veut dire que vous ne voulez pas supprimer la subvention en soi, vous voulez pas supprimer ces spectacles en soi, c'est simplement que vous voulez changer le mode de fonctionnement pour que ça devienne également rentable pour vous, c'est ça?
Alors ce sera jamais rentable pour une collectivité, mais limiter un petit peu la casse sur le plan budgétaire. Donc en fait, c'était open bar pour les sociétés de production à Carpentras. Le message est très clair. Maintenant, cette manière de faire, c'est terminé.
Et
viendront ceux qui trouveront encore un intérêt économique, bien évidemment. Et je ne suis pas inquiet sur le sujet. Et ensuite, il y a un deuxième aspect à votre question, c'est le contenu de la programmation culturelle.
Oui.
Voilà, c'est vrai que la musique, c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et en réalité, selon les aspirations des uns et des autres, eh bien, le contenu est différent.
Alors, question quand même qui est liée un petit peu à tout ça, mais est-ce qu'il existe des investissements rentables pour des mairies ? C'est-à-dire des investissements qui font vraiment gagner de l'argent ? On a l'impression que dans tous les cas, la finalité, c'est que ça va toujours nourrir plus soit la mairie en elle-même, soit l'État. Est-ce que, par exemple, il y a des investissements que vous pouvez faire qui peuvent rapporter de l'argent à la ville ?
Oui, oui. Alors là, je suis actuellement en train de cibler du foncier. Mmh. En cœur de ville et proximité immédiate du cœur de ville, dans la perspective de permettre l'installation d'une activité hôtelière, puisque Carpentras est quand même dans un environnement touristique remarquable, avec une capacité hôtelière très faible. Mmh. Donc en fait, je fais de l'anticipation, de la prévision, je rachète des bâtiments avec du terrain pour permettre une revente d'ici 2, 3, 4 ans à des opérateurs privés qui, eux, développeront une activité commerciale. Et là où ça devient rentable pour la ville, c'est que, un, j'ai un patrimoine immobilier qui va prendre de la valeur, puisque un indicateur d'une bonne gestion, c'est la reprise à la hausse du prix du mètre carré. Et deux, l'opérateur privé va devenir contribuable de la commune. Mmh. Donc j'aurai des rentrées fiscales via son activité.
Oui. Et alors, j'ai un auditeur qui me fait une remarque assez amusante, c'est qu'au vu de tout ce que vous avez à faire, il dit effectivement, bah oui, enfin, vous devrez être maire à plein temps. Donc pour le cumul des mandats, c'est peut-être compliqué, non ?
Alors il faut arrêter de penser qu'un maire est pendu au clou de sa mairie. Si on a cette approche, je crois qu'on n'a pas conscience de ce qu'est un mandat. Un mandat, c'est une activité accessoire.
C'est-à-dire ?
J'insiste sur ce point. Bah, c'est-à-dire que vous avez des boulangers maires, des avocats maires, des médecins maires. Bon. Donc, ça veut bien dire qu'on ne peut pas arrêter dans énormément de communes l'activité professionnelle parce que l'indemnité qui est versée aux maires est indigente au regard de leurs responsabilités.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser, Hervé de Lépineau. Est-ce que, en toute transparence, comme on dit, vous pourriez nous donner le montant de votre indemnité et nous indiquer aussi, parce que c'est une question qui se pose souvent, vous allez faire le choix de réduire ces indemnités. On sait que, par exemple, à l'inverse, la France, certaines mairies de la France insoumise ont choisi, quant à elles, d'augmenter les indemnités, alors qu'elles font justement profession de l'inverse.
Alors, en fait, on ne peut pas raisonner en généralité, c'est toujours du cas par cas. Mmh. En ce qui me concerne, donc, mon indemnité de maire est de 4 200 € net. En sachant que je suis profession libérale, donc je ne suis ni retraité ni fonctionnaire. Mmh. Un maire fonctionnaire ou retraité va toucher sa pension, sauf s'il y renonce parce qu'il se met en disponibilité. Et en tout état de cause, le maire retraité, lui, touchera l'intégralité de sa retraite. Mmh. Ensuite, moi, l'année prochaine, j'ai 3 enfants étudiants. Donc, vous imaginez la charge. Et là, les auditeurs qui sont pères et mères de famille comprendront que représentent 3 étudiants, et surtout, nous, en province, on est obligé de les envoyer en métropole. Donc, il y a un logement à louer. Et 3, je suis profession libérale. Et même si je n'ai pas demandé mon omission au barreau de Carpentras, je ne touche plus un centime de rémunération depuis que je suis élu parlementaire en 2022. Mmh. Donc, je vais répondre à cet auditeur. Moi, je ne vis pas de l'air du temps. Mmh. Je n'ai pas de fortune personnelle, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas retraité. Donc, j'ai besoin de cette indemnité pour satisfaire mon devoir d'État. Mmh. Donc, il faut arrêter cette hypocrisie sur « non, non, je vais diminuer pour donner l'exemple. Si j'ai 6 500 € de retraite de la Caisse des dépôts, je peux me le permettre.
Ouais. »
Bah ouais, moi, j'ai pas de revenus par ailleurs en l'État, donc je ne peux pas me le permettre.
Mmh.
Voilà. C'est aussi simple que ça.
Alors, également, une autre question que je voudrais vous poser, c'est sur la question des barrières que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que la première, c'est peut-être au niveau institutionnel. Vous êtes dans une région qui est tenue quand même par un certain Renaud Muselier, qui n'est pas connu pour être particulièrement favorable au camp national. Est-ce que, même au niveau régional, départemental, vous sentez d'ores et déjà des barrières de ce côté-là ?
Oui, alors on va parler de l'état profond provincial. Il existe cet état profond, et Renaud Muselier et son organisation en est un très bel exemple. Bah oui, je le vis, cet état profond qui s'est mis en opposition via l'agglomération. Carpentras, qui est la ville-centre de la COV, donc qui est la communauté d'agglomération qui regroupe 25 communes. Carpentras est la ville-centre de cet agglo. Elle assure 55% des rentrées fiscales de l'agglo. Je n'ai aucune vice-présidence, je ne participe pas à la gouvernance de l'agglo. Donc la sanction va être très rapide. Je vais virer tous les services de l'agglo qui sont actuellement hébergés plus ou moins gratuitement par la commune. Et je vais surtout engager la procédure de sortie de cet agglo pour en intégrer une autre. Alors je sais que ça va être très long, très difficile. La probabilité de réussir est pratiquement égale à zéro. Et moi, ça me permettra de communiquer sur le fait que ces braves gens de l'État profond provincial ne veulent pas ma gueule, mais par contre, veulent bien mes sous.
Oui. Et alors, justement, même au niveau départemental, par exemple, au niveau de la préfecture, est-ce que, pareil, c'est quelque chose à ménager, les relations entre un maire et un préfet, entre des présidents de départements, de régions? Comment est-ce que vous allez pouvoir faire, justement, pour assouplir ça? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'un jour réussir à assouplir les relations avec la préfecture ou alors avec la région, en attendant?
Moi, mes relations avec la préfecture sont très bonnes. Je tiens quand même à rappeler à vos auditeurs que je suis élu local depuis 20 ans.
Ouais.
J'ai été conseiller municipal dans deux communes, dernièrement à Carpentras comme conseiller d'opposition. Je suis conseiller départemental depuis 2015. J'ai été suppléant de Marion Maréchal de 2012 à 2017 et je suis parlementaire depuis 2022. Donc, je suis un petit peu identifié dans le landerneau politique local. Donc, j'ai de très bonnes relations avec les représentants de l'État. La région, en fait, je la découvre depuis que je suis maire, mais je vivais très bien sans elle. Mais après, vous savez que la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, a fixé des compétences dédiées à chaque collectivité. J'ai des enfants lycéens, je sais très bien que la région intervient dans le financement du fonctionnement des lycées. Donc, je ne vais pas non plus nier cette participation régionale, mais sur un plan plus politique, quand vous entendez Renaud Muselier en séance plénière du Conseil régional PACA dire « nous avons perdu Carpentras », il me semble qu'il est plutôt de droite, mais surtout très macroniste, ça veut bien dire qu'un système est inquiet de voir des élus du camp national prendre des exécutifs locaux.
Bien sûr. Et alors, un autre point, justement, qui est peut-être qu'il nous reste 3-4 minutes, Hervé de Lépineau, ce sera peut-être ma dernière question. Est-ce que être un maire RN, c'est être un maire comme les autres? C'est-à-dire, je m'explique un petit peu. Récemment, il y a un observatoire qui a été lancé, l'Observatoire des maires RN. Donc, c'est une nouvelle association d'extrême gauche. Et l'idée, c'est que finalement, ils vont surveiller eh bien, tout ce qui va se passer dans les mairies RN à travers toute la France. On a l'impression, d'une certaine façon, que vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur.
Alors, en règle générale, les élus du camp national n'ont pas le droit à l'erreur. Après, il faut relativiser tout ça. Aujourd'hui, nous avons, nous, un foyer d'extrême-gauche qui est en caisse de résonance avec Raphaël Arnaud et la Jeune Garde. Je tiens à rappeler que la Jeune Garde a été dissoute. Le Conseil d'État a confirmé cette dissolution. Donc, tous ceux qui pourraient s'en revendiquer aujourd'hui commettraient le délit de reconstitution d'une ligue dissoute. Bon. Et ensuite, moi, je ne lis ni Libération, ni Mediapart. Donc, je peux vous dire que je dors bien et je vis bien. Ça sert à rien de s'inoculer du poison en allant tous les matins voir ce que ces baromètres qui indiquent plus le froid que le chaud et ces boussoles qui indiquent plutôt le sud que le nord vont dire sur vous. Moi, je m'en contrefiche. Ce qui m'intéresse, c'est que mes administrés soient satisfaits de la gestion et le juge de paix de la satisfaction de la gestion, c'est l'électeur. Donc, c'est certainement pas Mediapart et Libération qui vont me dire ce que je dois faire.
Il nous reste 2 minutes, finalement, Hervé de Lépineau. Autre point, on sait que le Rassemblement National axe ses campagnes au niveau national sur ces deux thèmes, immigration et pouvoir d'achat. En réalité, justement, on a parlé un petit peu de la question économique. Sur la question migratoire et sur la question de l'insécurité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que on sait que la mairie a finalement assez peu de marge de manœuvre au niveau migratoire. Maintenant,
C'est une politique d'État, l'immigration. Oui. Donc, les communes subissent, en réalité, les conséquences des politiques migratoires. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, moi j'arrête de construire des logements sociaux à Carpentras parce qu'on a atteint le minimum qui exige la loi. Or, on sait que le logement social est un vecteur d'immigration. Donc, je vais faire en sorte qu'il y ait plus d'immigration nouvelle qui arrive à Carpentras. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, bien évidemment, nous avons dans nos mairies le souci de la sécurité et de la tranquillité publique. Donc, je vais renforcer ma police municipale, je vais renforcer ma collaboration avec la police nationale et le parquet de Carpentras pour faire en sorte que une certaine quiétude de vie soit retrouvée à Carpentras. Mais je ne peux pas avoir la prétention d'influer sur la politique migratoire. Je répète, c'est une politique nationale, c'est une prérogative de l'État, et nous subissons ces prérogatives de l'État.
Merci beaucoup Hervé de Lépineau d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir un petit peu exposé justement toutes ces problématiques et à la fois tous ces défis que vous allez avoir à relever. Peut-être qu'on se rendra un jour justement chez vous à Carpentras pour faire un reportage de terrain, voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, merci pour cet entretien passionnant et on vous dit à bientôt ici sur Ligne Droite.